Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Fabien Ilvain,
oui,
auteur de Monostatos, de Saveur du Ciel, etc. Tu nous apportes un jeu aujourd'hui de Ben Lehman, jeu qui s'appelle...
This game contains absolutely no triggering material.
Ce qui, une fois traduit, donne...
Ce jeu ne contient absolument aucun matériel qui pose des problèmes en termes de sécurité émotionnelle.
Attends. Ça veut dire que c'est un jeu complètement...
c'est la meilleure traduction.
C'est un jeu complètement unsafe, on est d'accord.
Voilà. Ouais.
Et donc, les gens qui ont accepté de jouer à ce jeu sont...
Des foufous.
Pierre Rosier, Pierre, ça va la pêche?
Oui, ça va.
Nous sommes également avec Valentin T.
Salut.
Nous sommes avec Jérémy Klein.
Salut.
Nous sommes avec Jérôme S. de Poitiers.
I have the pitch.
Et nous sommes avec François Néron.
Salut.
Et donc, vous tous avez décidé de faire les foufous.
Bah, Antoine,
de jouer. Antoine est dans le public.
Mais si, Antoine y joue.
Bah, je sais pas.
Non, si, a... Antoine y joue. Antoine y joue.
Ça commence, le côté safe.
Le côté safe, il marche bien. Tu sens le côté sécurité émotionnelle, le consentement, alors, tout ça.
Ce podcast ne contient absolument aucun triggering matériel. Ok, très bien, Fabien, parle-nous de ce jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Eh bien, c'est un jeu donc de Ben Lehman. Alors, petite note, donc c'est un jeu qui vient du Patreon de Ben Lehman, puisque je fais partie des gens qui filent un peu des sous. Donc
moi aussi,
j'invite à nouveau à filer des sous. Je précise aussi, parce qu'il l'a dit à ses Patreons, et je pense que ça vaut la peine qu'on commence à le dire, qu'il envisage de plus en plus d'utiliser le nom P.H. Lee, donc P. Enfin, les initiales PH et LIELEE, qu'il considère être un nom gender neutral.
Donc, d'accord.
Il n'a pas précisé si ça annonçait sa transition ou si c'est simplement le fait de vouloir tout rassembler sous un
aïe, 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 j'espère qu'on va pas avoir ce problème d'enregistrer le podcast maintenant.
Alors, aussi précisé, et tu vas, pour te rassurer, tu te rends par rapport au traumatisme que tu as.
Je ne veux pas vivre ça à nouveau.
Il savait pas encore sous quelle forme ça allait prendre, que c'était plutôt quelque chose qu'il demandait plutôt que c'est quelque chose qu'il demande, mais il saisit aussi je préfère avoir des amis que des défendeurs.
D'accord.
Et il précise aussi que, par exemple, le pronom gender neutral, donc neutre, enfin épicène, on va dire.
D'ailleurs, les Anglais, du coup, ils utilisent quoi?
They.
Ouais,
Et
parfois.
Il au pluriel ou elle au pluriel.
Ça, c'est le plus courant.
Qui est neutre, en fait, quand il est au masculin.
Et parfois, des trucs un peu exotiques, type here, his. Enfin, des choses un peu. Mais d'accord. T'as raison.
Ils n'utilisent pas it, quoi, contrairement
non,
à l'idée reçue.
Voilà. Non, ils utilisent they. Donc... Ah. Et d'ailleurs, ils utilisent they, et tu me corrigeras si je me trompe, Jérôme, mais c'est aussi un truc que tu peux. Avant même ça, dans le langage courant, par exemple, ton facteur vient et tu sais pas si c'est un homme ou une femme, bah, tu dis they come at noon. Mmh. Tu
vois. Tout à fait, sauf que là, c'est plutôt they comes. Comme ça, tu soulignes le fait que singulier d'une seule personne.
Voilà, la troisième personne du singulier. Très bien. Parce que, comme chacun sait, les verbes à la troisième personne du singulier en anglais prennent un S à la fin. Très bien. Donc, il faut tout préciser, je suis désolé.
Je me rappelle, en première L, il y en a qui ne s'en rappelaient pas déjà.
Oui, tout à fait. Donc, Fabien, est-ce qu'on va, à un moment donné, parler de ce
Alors,
jeu
Oui. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un jeu qui n'est pas safe du tout au niveau sécurité émotionnelle. Donc, c'est la seule fois où je vous le dirai. Et si vous voulez partir, il faut le faire maintenant. Mais il n'y aura aucune barrière, aucune aide.
Se lève.
C'est le truc le plus exotique que j'ai fait en jeu de rôle. J'ai bien choisi mon moment.
C'est parfait.
Donc, on joue... la première règle du jeu, c'est le titre du jeu. D'accord ? Donc, il n'y a à aucun moment... Ça te pose des problèmes en termes de sécurité émotionnelle. Okay.
Enfin, à aucun moment on peut. Non, c'est pas ça que ça dit. C'est voilà, on peut pas s'en plaindre.
On peut pas amener de matériel comme ça.
Ouais.
Voilà. Il y a deux personnages principaux, Dustin et Killa. Dustin est un homme assez sympa, charismatique, qui est apprécié dans sa communauté, qui a entre 30 et 40 ans, qui participe bien, on imagine bien le mec dans sa vie de quartier, il participe à des charities, des événements de la communauté, enfin il fait
des associations,
associations, il fait bouger des trucs. On va le créer en lui donnant un certain nombre de traits. Et Dustin est le beau-père de Kyla, ou Kyla, je sais pas, qui est une jeune femme de 14 ans, qui, elle, est plutôt timide, ne parle pas beaucoup d'elle, et est pas très, pas très appréciée, simplement parce qu'elle ne sort pas beaucoup de chez elle, parle pas beaucoup d'elle. Dustin et sa mère essayent vraiment, sincèrement, d'entrer en contact avec elle, mais elle... Ils ont vraiment des difficultés. Donc ça, c'est les deux personnages principaux. On va les créer. Et parmi nous, il y aura deux personnes qui l'un jouera Dustin et l'autre Kyla. Et après, on va jouer. Alors en anglais, c'est les bystanders. Là, à nouveau, si tu peux m'aider peut-être pour la traduction,
les passants.
ou les spectateurs peut-être. C'est le jeu nous dit bien que il n'y a aucune raison pour lesquels on parle précisément de bystanders. Clin d'œil
appuyé.
Clin d'œil appuyé. Sachant que...
Ouais, vas-y, s'il vous
plaît. Sachant que c'est un mot qui est en anglais fortement connoté comme étant les gens qui sont témoins d'un crime ou de quelque chose d'odieux de manière générale et qui restent là.
Et qui restent sur place et qui ne font rien.
Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, il y a trois types de scènes.
Je rappelle juste vite fait aussi, tant qu'on y est sur la linguistique, parce que je l'avais déjà regardé, là je vois c'est dans mon historique, donc je l'ai vite retrouvé. Le bystander, c'est aussi un effet. L'effet psychologique et social qui fait que les gens n'aident pas. Quand il y a une situation, quand il y a plus de gens autour, apparemment, si je.
La diffusion de responsabilité, dit Jérémy en dehors
c'est
des
ça,
micros.
La diffusion de la responsabilité, je l'ai dit dans les micros.
Et donc, il y a trois types de scènes, pardon. Il y a des scènes ordinaires. Les scènes ordinaires, c'est... Donc, ah oui, on va aussi... les autres vont chacun se créer un personnage... spectateur, on va l'appeler comme ça. Mmh. On va chacun se créer un personnage spectateur. Et ce personnage spectateur, on va lui donner un nom dans la communauté. Une des règles, c'est que, de manière générale, on a tous à peu près la même opinion sur... Dustin et Kyla.
D'accord.
C'est-à-dire que, et dans aucun cas, aucun d'entre nous n'appréciera ou ne fera plus confiance à Kyla qu'à Dustin.
D'accord.
D'accord. Il y a les scènes ordinaires.
Pourquoi ça vous fait rire? Juste, j'entends.
Rire public.
Ça fait rire les enfants du
Ça vous
fond,
fait là. Rire! Ça ne fait rire que ça, vous!
Morgan Thaler!
Non, mais sans venir la couille dans le potage, c'est tout. Hein.
D'accord.
Le truc, c'est qu'il n'y en a pas.
Mais il n'y a pas de couilles dans le potage, exactement. Et Jérôme a tout à fait raison, c'est interdit, il n'y a pas de couilles dans le potage. Ça, je le précise et je le répète. Tu as tout à fait raison de me le dire, Jérôme. Jérôme ne jouera pas parce qu'il a déjà lu le texte jusqu'au bout. Donc, il y a les scènes ordinaires.
T'as perdu au jeu déjà, c'est ça.
Les scènes ordinaires, donc, c'est des scènes avec à la fois Dustin et Kyla, c'est les scènes les plus courantes, dans lesquelles il y a un événement type... Alors, on va jouer en Amérique, hein, parce qu'apparemment, c'est un jeu... En états-unien, on va jouer puisqu'il y a des scènes du genre c'est le 4 juillet, c'est un pique-nique, c'est soccer game, on est à l'église, on vient sans aucune raison particulière, on vient rendre visite comme ça gratuitement. Et donc dans ces scènes-là, vous allez voir comment ça se passe. Il y a une dynamique entre Dustin et Kyla à mettre en place, puis les autres interagissent avec ça. Il y a ensuite les venting scenes. Venting, donc c'est scène de relâchement ou de dans lesquelles Kyla est absente et Dustin est là avec d'autres spectateurs. Et voilà, on verra ce qui va se passer dedans. En se souvenant qu'à chaque fois qu'il n'y a aucun There is absolutely no triggering material, d'accord ? Donc je le répète. Et enfin, il y a un troisième type de scène qui sont les scènes privées avec exclusivement Dustin et Kyla, mais qu'on ne joue pas parce qu'il n'y a pas de spectateur pour y assister. Donc on sait qu'elles existent, mais on ne les joue pas.
D'accord, ok.
Et il y a un épilogue, et on parlera de l'épilogue quand on y sera.
Donc tout le monde, ce qui est rigolo autour de la table, c'est que chacun sourit, rigole, a un petit sourire gêné, je vois Jérémy Klein pensif, chacun se figure déjà à la lecture des règles, une idée du genre de
Je vous
chose.
Rappelle qu'il n'y a aucun problème de sécurité émotionnelle dans
Mais
ce
est-ce
jeu.
Que ça,
ça
veut dire quand
important.
Même qu'on peut quitter la partie?
Bah évidemment, je veux dire, je suis pas...
Bah je sais pas, c'est pas évident. Quitter la partie, c'est un...
Non mais si tu te casses, je vais pas te courir après, quoi.
D'accord, ok. Jérémy.
Quand tu dis aucun problème, il y a quand même le mot problème qui apparaît.
Oui, mais il n'y a aucun triggering material, tu vois.
Donc, ne pense pas à un éléphant, ne pense pas à un éléphant.
Ah
par contre, je me dis, pour les auditeurs et auditrices, ça pourrait être sympa qu'on définisse un peu mieux triggering material, non?
Ben oui, tu as tout à fait raison. Alors, donc ça fait partie du vocabulaire.
Trigger, ça veut dire déclencher.
Ça fait partie du vocabulaire autour de la
sécurité émotionnelle.
Et puis quand, par exemple, tu sais que ton œuvre va parler de thèmes difficiles, tels homophobie, transphobie, sexisme, racisme, viol, agression,
racisme.
Incendie, pourquoi pas, meurtre, gore, du sexe de manière très crue. C'est à peu près ça, hein,
oui, c'est ça. En fait, merci. Tu avertis tes joueurs que ces thématiques seront abordées.
Voilà.
Tu fais ce qu'on appelle un trigger warning, c'est-à-dire tu préviens avant.
Et là, le jeu fait exactement le contraire.
Les thématiques pourront se déclencher dans la partie. Et là, cette fois-ci,
le jeu fait exactement le contraire. Dit, il n'y aura absolument aucun problème de ce point de vue-là. Et ça nous a même interdit. Ça va tout ça?
Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Bon, si vous voulez quitter le truc...
C'est pas ça, mais j'ai du mal à comprendre le titre, en fait. Je sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ces thématiques n'interviendront pas du tout? Ou est-ce que
absolument
ça veut dire...
Absolument pas. C'est ce qu'il dit. Absolutely not. Il y en aura zéro. Ma cache.
La question, c'est... Ouais, voilà,
donc Jérémy souligne bien le problème de...
T'es en train de faire le podcast avant le podcast.
De l'éléphant. Bah, il faut juste comprendre. Ce que tu dis, c'est la première règle. Si je la comprends pas,
Je pense que on est en train de faire le podcast avant le podcast. Mais la question, c'est est-ce que c'est une promesse que te fait le jeu? Ou est-ce que c'est une interdiction?
Ok, voilà, c'est ça.
En réalité, on passe de la promesse, c'est-à-dire, et tu dis, ah ben non, vous inquiétez pas, ça va être My Little Pony, tout va bien se passer, à une interdiction, c'est, il n'y en a pas. N'y pensez pas, il n'y a pas d'éléphant.
Voilà, c'est ça. Okay, donc,
vous n'avez pas le droit, s'il y a un éléphant, vous n'avez pas le droit de le mentionner.
Tu vois, la précision est importante, parce que moi, par exemple, je n'avais pas compris ça. Ok, très bien. Bon, toujours partant. Ah, c'est marrant, j'aime bien ces réactions là, genre
Là, il faut une vidéo là.
Ouais, là il faudrait la vidéo, l'arbitrage vidéo, mais nous ne l'avons pas. Allez, on verra ce que ça va donner. Jouez bien. Ok, fin de la partie de There is no triggering material.
On a besoin de se nourrir.
Absolument.
Affectivement.
C'était horrible.
Tout le monde est en train de manger, ça semble vous avoir coûté beaucoup d'énergie ce jeu. De l'extérieur, on avait l'impression que vous avez passé votre partie à vous engueuler, festin.
En fait.
Alors bah de l'extérieur, je te le dis.
C'était plus insidieux que ça, c'est peut-être ça toute la problématique. Je sais pas, c'est ta première partie Fabien ?
Ah d'accord.
Ouais.
Je sais pas, je pense qu'il y a des parties qui sont peut-être plus mouvementées.
Ouais, ça aurait
là,
pu
la thématique plus... a été vraiment... Non, je pense que les règles font quand même que ça doit être bien insidieux quand même, parce qu'il y a les fameuses scènes non dites, et qui, mine de rien, fait beaucoup de choses dans tout ce qui se passe dans les scènes qu'on fait.
La règle principale fait que rien ne peut être explicite, donc on va rester sur des trucs plus subtils. Forcément.
D'accord.
Okay. Rien de violent peut être explicite.
Donc t'es tout le temps en train d'interpréter le pire en quelque sorte.
Ou d'imaginer.
Ah mon petit Valentin.
pourquoi Valentin et.
Bah l'interprétation c'est quand même son truc tu vois.
Ok. Donc en fait.
Et on a dit la même chose dans Minuit pour toujours aussi. Dans Minuit pour toujours t'es aussi souvent en train d'interpréter le pire.
Donc si je vous comprends bien, le jeu instaure une espèce de malaise ou d'ambiance en ne disant pas le pire, mais vous laissant la liberté de l'imaginer, du coup. Et comme chacun imagine le pire, chacun est dans la pire attitude possible. Enfin,
en quelque sorte, il y a un côté... Je ne sais plus qui a dit au début... En fait, c'est Happy Together. Au début, c'est Happy Together, tu vois. Notre première scène, c'était c'est le 4 juillet. Et puis, on fait griller des steaks de tofu à l'extérieur, dans le jardin. Les gens emmènent des bières véganes et tout. Et il y a une petite engueulade entre un beau-père et sa fille. Mais pas grand-chose, quoi. C'est juste qu'elle traîne la glacière au lieu de la soulever et ça laisse des marques sur la terrasse. Enfin, tu vois, c'est cud. Et oui, parce que moi, je suis un gent.
C'est cud. C'est cud, quoi.
Et en fait...
Gents des années 80.
Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que il y a toute une partie qui n'est pas montrée forcément derrière ce slice of life sympa, notamment à travers les scènes de troisième type, les scènes privées entre Kayla et Dustin, dans lequel on s'est mis d'accord. Ça, c'est pas exactement précisé, mais on s'est mis d'accord sur le fait que à certains moments, on disait et maintenant. Il y a une scène entre Dustin et Kayla, mais les règles nous interdisent de la représenter puisque there is absolutely this game contains absolutely no triggering material.
Et alors pourquoi on n'aurait pas le droit de représenter une scène
Précisément parce que
tout le monde s'imagine le pire. Je pense que tout le monde a une vision de ce qui s'est passé dans ces scènes, mais on n'a pas la même. D'accord. Mais du coup, c'est le pire pour chacun.
En fait, ce qui est important pour bien comprendre comment ouais. ça fonctionne, c'est que le jeu dit explicitement. Quand ces scènes ont lieu entre le personnage du beau-père apprécié un peu tout le monde globalement et de la belle-fille qui en fait c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la création de personnage mais il est clairement établi que la communauté en général tous les passants tous les témoins apprécient Dustin globalement enfin nous on l'appelait Dustin mais le personnage du beau-père tandis que la belle-fille systématiquement elle est moins sympa moins appréciée moins soutenue par la communauté il y a toujours ce rapport là de il y a un effet de communauté avec le beau-père et donc les seules scènes où il n'y a pas de bystander de passant les scènes à deux entre le beau-père et la belle-fille ce qui est explicitement dit c'est ces scènes ont lieu mais on n'en parle pas parce que vraiment une raison une causalité parce que this game contains no triggering material
d'accord.
Donc c'est explicite que ces scènes là si elles étaient racontées contiendraient du explicite matériel
d'accord ok très bien rapidement pour bien comprendre l'un d'entre vous jouait la jeune fille
son personnage et
donc qui jouait la jeune fille
moi Antoine
Antoine
je jouais Kira 14 ans,
Kira, logiquement.
Kira
ouais. Kira,
je
oui.
J'ai noté Kira, je sais pas pourquoi.
Je sais pourquoi. De toute façon, cette pauvre fille, c'est à cause de Death Note.
Ouais, peut-être. Ou
Kira, Killer.
Parle dans le micro, Pierre.
Bah ouais, mais j'en ai pas.
De toute façon, cette pauvre fille, tout le monde ignorait son nom, c'était annonciateur de tout ce qui allait se faire pendant la partie.
Donc, je jouais Kira, qui était dessinée par les traits qu'elle avait.
Kira.
Non mais moi c'est Kira, ça a enregistré, tant pis, désolé. Mais je crois que j'ai écrit Kira sur ma feuille même, donc
okay. Hein,
c'est ma feuille.
Et toi Jérémy, si j'ai bien compris, tu jouais...
Moi je jouais le beau-père, pédiatre, vegan, qui aime bien organiser des barbecues, qui fait des missions humanitaires, et qui vote démocrate et qui participe à des collectes de sang.
N'est-il donc, pas merveilleux ?
Voilà, c'est un bel homme.
Ouais. Tandis que moi... Kila.
Jérémy. Donc,
moi, Kila, pendant
tout pour
ce temps...
Pierre, il a toujours raison.
Absolument.
Bastis, pardon, c'est une création commune. C'est-à-dire que tout le monde propose des traits et le joueur ou la joueuse prend parmi ses traits.
D'accord.
Et dernier élément, excuse-moi, et après je te donne la parole, Antoine. Nous, spectateurs, on prend un trait de Kira et un trait de Kila et un trait de.
Dustin
De Dustin. Et on fait nos personnages à partir de ça. Par exemple, mon personnage était à la fois vegan et on lui avait reproché. Enfin, il y a des dégradations dans le quartier, des tags go vegan et tout le monde pense que c'est lui qui les a fait.
Ok, François.
Et il est important de préciser parce que ça n'a pas été dit explicitement là que du coup, quand on crée les traits, il y a une gamme de traits positifs parmi lesquels Dustin va piocher et une gamme de traits négatifs explicitement. C'est pour ça qu'on les crée, qui vont être choisis par qui là.
Voilà. Qui vont être choisis ou qui vont lui
choisi.
Être imposés.
Alors, choisis, mais seulement dans la liste des négatifs.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Alors que les bystanders choisissent un de chaque.
D'accord.
Voilà.
Antoine.
Je pense que ça peut être bien pour bien comprendre qu'on lise les traits un peu qu'on avait chacun notés. On a ces discussions de groupe où on note plein de traits, quasiment 10 ou 12. Après, nous, Dustin et Kila, on en choisit 4 ou 5 dedans. Et là, ce qu'on a fait, mais c'était un peu improvisé, on a attribué, c'est nous qui avons choisi, bah tiens, Valentin, ton personnage est. A déjà fait une fugue et tel autre truc et donc on choisissait parmi tous les traits qui nous avaient été proposés.
Il s'occupe des chiens, le personnage de Valentin Joe.
Il s'appelait Joe et on peut choisir un trait qu'on nous-mêmes on a choisi de garder aussi et ça je pense les lire ça va déjà donner le ton de ce qui se met en place dès la création de personnage parce que comme c'est établi que Kira a des traits globalement négatifs mais pas non plus forcément affreux
oui,
non
oui,
plus
oui,
et que Dustin
sûr.
Est très positif, je pense que les lire ça donne une idée, c'est-à-dire qu'à la fin de la création de personnage moi j'ai la liste suivante devant mes yeux acné très poussé et surpoids limite obèse, vocabulaire injurieux et vulgaire, déjà fait une fugue, des mauvaises notes à l'école, ne va pas à l'église le dimanche, méchante avec ses camarades de classe, travaille en groupe difficile, mal habillée, suspectée d'avoir dégradé des trucs dans le quartier, orgueilleuse, un tatouage tribal, moche, vulgaire, ne se remet pas en question, bornée et têtue.
Putain, je comprends pas, il y a plein de qualités là-dedans. Orgueilleuse, c'est une super qualité, ne pas aller à l'église, c'est une super qualité, enfin,
faire des podcasts.
Du point de vue... du point de vue de la communauté et des passants, il y a cette idée-là. Et donc, un truc que j'ai remarqué qui est assez marrant, c'est que même si j'en choisis 4, à partir du moment où dans le brainstorm collectif, tout ça a été évoqué, moi j'ai vraiment l'impression que même ceux que je ne choisis pas, ça y est, les gens les ont en tête,
ils sont dans le subconscient des joueurs.
Et typiquement, c'est génial, ça. J'ai pas choisi vocabulaire injurieux parce que je savais que j'allais le faire quoi qu'il arrive. et il y a des points que j'ai pas choisi mais qui sont restés dans le subconscient des joueurs. Et au final, si t'as pas 4 traits négatifs, t'en as 4 que t'as choisi, affirmé, et les 8 autres restent dans la tête des gens. Et l'effet inverse va chez Dustin aussi, le beau-père.
Un point que je trouve intéressant mécaniquement aussi, c'est que les bystanders ont un trait qui vient de chacun des deux pools de traits, ça crée instantanément une sorte de forme de communauté autour. Parce qu'il y a des choses communes entre les personnages directement.
On sait ce qu'on partage avec chacun des personnages.
C'est ça. Ce qui va permettre d'avoir directement des axes de communication, des idées de scène, et des choses qui vont permettre des de liens, jouer un peu plus facilement.
Ça fait groupe, du coup. Ça, c'est presque un mécanisme de création
et
de groupe.
Et Dieu sait que dans ce jeu, une sorte de pression de groupe prend place du part du rôle des bystanders et de leur préférence inhérente pour Dustin.
Parlez pour vous, monstre.
Jérémy,
oui, t'as choisi bien ça résume parfaitement, c'est-à-dire que comme on met des traits positifs, socialement je suis quelqu'un de tout très positif et forcément le groupe va être plus facilement vers moi sur le papier et que cette personne qui a tous les traits négatifs, même quand c'est pas dit, va suffire pour dire il y a un camp qui va se dessiner.
De toute façon, les règles disent que les bystanders préfèrent Dustin à Killa.
Oui, tout à fait.
Donc il y a déjà une pression sociale qui est mise sur Killa, et moi j'ai justement l'avantage de cette pression qui vient avec une sorte d'arme, une arme sociale, et qui du coup, comme mon personnage est persuadé, et que quelque part je sais que les personnages qui vont être autour de moi ne vont pas être contre directement, ça va mettre une pression énorme.
Tu peux puiser dans le positif pour faire des propositions et d'accord.
Est-ce que par contraste, tu peux lire les traits, tous les traits qui t'avaient été suggérés pour Dustin et ceux que tu as retenus au final pour voir la différence?
Alors, j'en ai pas enlevé tant que ça. J'ai enlevé le trait aime la nature, garde les chiens. Le côté cash aussi, mais du coup, je trouvais que vu qu'il était déjà vegan, mission humanitaire, il avait déjà un point de vue bien cash, je me suis dit que ça ne rajoutait pas plus, donc on ne l'a même pas utilisé du tout. Et croyant chrétien.
Alors ça, c'est ce que tu as gardé ou
c'est
ça,
c'est ce que je n'ai pas gardé. Ce que j'ai gardé, c'est vraiment le pédiatre organise des barbecues et il est vegan.
Ce que tu as dit tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, mission humanitaire, démocrate, collecte de sang.
D'accord, ok.
Et ce qui est important dans tout ça, moi, l'état d'esprit dans lequel je me suis mis dès le début de la partie, c'est que c'est vraiment le point de vue des bystanders de façon générale, le point de vue de la communauté sur les personnages. Pour moi, c'est pas des vérités absolues établies de façon objective, qu'il aille comme ça, un tel est comme ça. C'est ce que perçoivent le groupe autour, ce qui contribue à leur point de vue sur la situation, ce qui les contribue à prendre parti pour Dustin, ce qu'ils sont un peu obligés de faire en théorie.
François, puis Valentin.
Dans la manière dont ces scènes s'articulent, il me semble clair que le jeu se passe du point de vue des bystanders, parce que les scènes privées entre Dustin et Killa ne sont pas jouées, ne sont pas vues. Et à la fin, si on peut dire ce qui se passe à la fin, voilà.
Oui, bien sûr.
À la fin du jeu, le personnage de Killa a le choix entre fuir la situation ou rester et mourir. Et donc, si elle choisit de fuir, ce qui se passe après la fuite doit être imaginé par le joueur, mais n'est pas dit au reste de la table.
Le peu qui est dit,
chaque joueur s'imagine la fin.
En fait, non. À la fin, j'ai dit à Morgan, donc Morgan, à Antoine, le personnage
souvent.
excuse-moi, le personnage, donc le joueur de Killa, je vais y arriver. Je lui dis, voilà, t'as le choix. Soit Killa reste, soit elle s'enfuit.
Très bien.
Il m'a dit, elle s'enfuit. Et je lui demande, qu'est-ce que nous, spectateurs, on en voit Donc il nous répond, eh bien, vous voyez que... alors tu nous avais dit quoi exactement ?
Que, quelques années après, elle allait dans un internat, elle faisait son lycée dans une autre ville, un peu à l'écart, et que du coup vous la voyez moins, et que plus tard elle s'arrangera pour aller faire ses études
au Canada,
prendre de la distance. Et,
donc ça c'est voilà. Ce que nous on a vu. Et ensuite je dis à Antoine, eh bien maintenant, imagine sa vie après, que évidemment aucun des spectateurs ne connaîtra jamais. Et donc c'est dans la tête d'Antoine et il ne nous le dira jamais.
Ah d'accord, ok, très bien. Ouais.
Donc c'est dans sa tête, là il y pense en ce moment, mais...
Mais on ne sait pas.
si il m'avait dit elle reste...
C'est différent.
La question à ce moment-là, c'est, je dis, ok, elle meurt entre maintenant et dans 6 ans, donc entre 14 et 20 ans elle meurt, à toi de nous dire comment ça arrive. Donc tu peux imaginer tout un vaste, là aussi, ça, tu vois, de la même manière que la fuite, ça peut aller de la fugue assez violente à ce qu'il a choisi, c'est-à-dire je me débarrasse définitivement de mon beau-père. Et bien, la fuite, ça peut être, la mort, ça peut être ben, mourir sous les coups de son beau-père, mourir accidentellement, mourir d'un suicide aussi, c'est quand même très, très probable dans ce genre de situation.
Très bien. Valentin voulait intervenir.
Ouais, il y a un truc que je viens de me rendre compte, c'est dans la création de personnages, en fait, on a un effet de stéréotypage, mais au sens sociologique, quoi. C'est-à-dire que c'est des éléments qui sont que t'as choisi sur ta feuille. Je sais plus lesquels c'était exactement, mais en fait, dans l'effet de stéréotypage, on va te mettre dans une boîte dans laquelle il y a d'autres étiquettes. Et on va, c'est le principe du stéréotypage, tu vois. C'est on va dire, bah voilà, une personne de couleur. Et on va rajouter des éléments inconsciemment dans notre tête à cause des préjugés racistes, en fait.
Très bien, ouais.
Et en fait, c'est ce que fait le jeu indirectement, parce qu'il y a toutes ces étiquettes-là. T'en choisis que 4, mais il y a la collection du stéréotype qui arrive, quoi.
D'accord, ouais. La collection de timbres.
Oui, on l'aime pas, donc forcément, elle est mauvaise en classe et injurieuse et tout le reste. D'accord. Enfin, tu dis préjugé raciste, mais ça peut être préjugé...
Voilà. Là, c'est le préjugé mauvaise gamine, quoi.
Ouais.
C'est ce préjugé-là. Et à l'inverse, Dustin, c'est le préjugé...
Bon père.
Ouais,
je sais, c'est bon, ça va. Pas de réflexion là-dessus, c'est mon téléphone qui sonne.
Ah, t'as changé de sonnerie ?
Oui, c'est super. Non, c'est toujours la même depuis le début des podcasts.
Ah ouais ?
Quasiment, ouais. Rien. Écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler.
C'est fou,
je préfère
la
présence. Tommy, je le remercie au passage de... avec qui on avait testé le jeu de... Comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah, je me souviens plus. Avery Adler, voilà. Antoine, au début, tu me disais que... Enfin, quand t'as pris le micro, t'as dit « Bon, je pense que les bystanders se sont fait chier ».
Non, c'était une question. Alors, c'est pas.
Quel est votre ressenti autour de cette table, les
voilà, moi, j'aimerais bien demander le ressenti un peu de chacun sur la partie purement à un niveau.
C'est vrai que
dans l'analyse.
Puisque c'est un truc tellement peu sécurité émotionnelle, on pourrait faire la technique habituelle de Maxime pour débriefer. C'est comment
vous vous sentez.
Comment tu te sens et comment t'as besoin et chacun fait le tour et en parle maintenant. C'est peut-être un petit peu tard, on aurait dû commencer sans doute un peu plus tôt, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Tu veux commencer,
on fait ça en premier, allez, d'accord.
Bah, moi je l'ai fait un peu parce qu'à la fin de la partie, j'ai proposé que Dustin et Kira se fassent un câlin, se fassent une accolade.
Enfin, plus exactement Jérémy et Antoine.
Oui, voilà. Mais moi je me sens, pendant toute la partie, en fait, j'ai eu de la pression, de la tension et du stress qui a monté au fil de la partie, jusqu'à un peu plus de la moitié où ça a atteint son paroxysme. Et après, c'est un peu redescendu quand j'ai commencé à avoir en tête les décisions que je voulais prendre et les dernières scènes que je voulais amener. C'est pour ça que l'avant-dernière scène, j'avais du mal à amener du conflit dedans. Parce qu'en fait, je suis censé... Alors, le personnage de Kila, Kila, en tant que personnage, doit, dans toutes les scènes où elle est présente, les scènes ordinaires, les scènes par défaut, aller au conflit avec Dustin. Et la scène est censée se terminer que quand il y a eu au moins une phase d'escalade de conflit entre les deux, qui peut monter de plus en plus jusqu'à un stade énorme avant que Kila se réfrène et qui peut juste avoir une légère engueulade, mais il est censé avoir ça quoi qu'il arrive. Et moi, il y a une scène où j'ai eu du mal à systématiquement le faire à chaque scène, c'est pas évident. Donc il y a une scène où je l'ai pas fait pour mieux préparer une idée que j'avais en tête d'une autre scène plus tard où là il y avait un conflit plus violent.
Donc le premier point, c'est que tu te sentais stressé par ça, par ces exigences. Fabien, tu voulais intervenir.
Juste pour préciser comment ça se passe dans le jeu. Donc le jeu dit explicitement qu'il doit y avoir entre Dustin et Kila une interaction de
tel que suit, qu'il a fait quelque chose que Dustin considère comme inapproprié. Je pense que je reviendrai sur que Dustin considère comme inapproprié, parce qu'en fait, Dustin, c'est presque plus du choix de Dustin que de Killa de considérer que quelque chose est inapproprié, tu vois. Enfin, tu peux avoir des enfants qui sont hyper soumis, et puis que, enfin, hyper, comment dire, adaptés, et leurs parents leur laissent encore moins rien passer que, tu vois, enfin.
Bien sûr.
Donc ça. Ensuite, qui la pousse jusqu'à un moment où ça ne peut plus être ignoré. La deuxième étape, c'est que Dustin annonce des conséquences. Mm-hmm. Donc les conséquences, ça peut être simplement une réaction un peu rude, jusqu'à structured punishment. Alors ça, c'est un truc que j'ai l'impression très, très états-unien, tu vois, le structured
punishment. Il me semble que le terme punition structurelle existe aussi dans le vocabulaire français.
Une punition ouais. structurée, ça serait plutôt...
Ouais, d'accord, mais tu l'utilises pas pour parler avec tes enfants aussi.
Oui, non, effectivement, non.
Je vais te donner une punition structurée.
Donc, structured punishment, c'est du genre...
C'est quoi ? C'est du vocabulaire de pédagogie.
D'accord.
On manque un petit peu de micro, c'est pour ça que, ah oui, que les auditeurs et auditrices comprennent. Et donc, le structured punishment, c'est ben, tu vas dans ta chambre, plus de vacances, pas, tu pars pas en vacances avec nous, pas de télé, pas de je sais pas trop quoi. Mmh. Et oui, ça peut même aller jusqu'à, je cite, hein, donc des menaces de médication ou d'hospitalisation.
Tu vas prendre ta petite pilule bleue.
Ouais, c'est ça, il va falloir qu'on te mette. Enfin, qu'on te fasse prendre des anxiolytiques.
Ça aurait pu être pire.
Oh, Jérémy.
Oui, ça aurait pu être bien pire, clairement.
Et c'est vrai que dans ce cas-là, enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est que j'ai trouvé que vous n'êtes pas allé très loin de ce point de vue-là. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas affreux, mais vous n'êtes pas allé très loin. Donc, vas-y, continue, Antoine.
Ce qui est important de préciser, c'est que j'ai adoré la partie. Moi, je trouve ce jeu vraiment, vraiment cool. Et j'ai signé, qu'au début, quand on a choisi les rôles et que tu as demandé qui veut faire la belle-fille, qui veut faire Kira, moi, j'ai levé la main direct. J'étais partant pour avoir le rôle que je pressentais comme un rôle difficile, un rôle de victime. Mais ça me tentait de le faire, donc je suis parti là-dessus. Le seul truc où j'ai du mal, effectivement, c'est de toujours aller dans le conflit sans que ça devienne justement. Parce que je voulais pas coller au stéréotype que les gens me posaient dessus. Donc je voulais toujours trouver des raisons d'escalader viables et pas valables voilà et pas escalader purement parce que le jeu me demande d'escalader. C'est pour ça qu'il y a une scène où j'ai eu du mal à le faire.
Je t'ai mis de la pression quoi.
Ça, oui c'est ça.
Sent bien. Hein,
mais surtout et je vais revenir sur ce que Valentin disait. On ressent énormément la pression de groupe et le stéréotypage parce qu'il y a, en particulier dans les interactions que j'ai eues avec Joe. Ce que je supportais pas chez Joe,
le personnage de Valentin.
Ce que je supportais pas chez Joe.
Il était insupportable.
Oui. Ce que Killa ne supportait pas chez Joe, c'était justement que comme il avait ses visions, ses stéréotypes et des éléments pour lui coller une image, il partait du principe qu'il connaissait qui était Killa, quel était son vécu, et qu'il pouvait utiliser des phrases du genre non mais j'ai je suis passé par là, j'ai eu ton âge, je sais ce que c'est, etc. Et ça c'est vraiment lié pour moi à ce stéréotype où tout le monde et toute la communauté a un côté quand il rassurait Dustin, il disait des phrases du type oh bah c'est comme ça les jeunes, l'adolescence c'est une période difficile. Il y a toutes ces espèces de facilité d'être dans une illusion de penser qu'on comprend ce que la personne traverse alors que c'est très insultant quand on te le dit en face, ce genre de choses. Donc fait, maintenant, pour finir sur le ressenti, je vais bien, je suis content de ce jeu. Si je parle vite, c'est parce qu'il y a quand même une pression, une tension qui reste, mais que j'ai recherché et que j'ai pris du plaisir à avoir en tout cas.
Au fond, on t'essayait de pouvoir nous séduire, nous, comme joueurs, presque, au sens séduction de la résistance asymétrique à la Frédéric Saint-Es, quoi, pour nous mettre de ton côté, quoi, et de ne pas tomber, justement, comme tu disais, dans...
Et je pense avoir réussi avec Pierre, qui va donner son ressenti ensuite.
Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oublie pas que c'est toujours... Comment tu te sens ? De quoi tu as besoin ?
Bah, j'avais besoin de manger une glace, c'est fait. J'avais besoin de faire une accolade à Jérémy, c'est fait. Voilà. Non, ça va. Peut-être que je prendrai un petit chaud tout à l'heure. Ouais.
Pierre, ton ressenti ? Même question. Comment tu te sens ? De quoi tu as besoin ?
Alors, de comment je me sens ? Bon, bah, c'est pas terrible, hein. Moi, en fait, dès que le jeu a commencé, je me suis dit « Oh merde, je me suis mis dans un piège ». Mais j'ai trouvé la partie très bien, le jeu très intéressant. Mais j'étais pas bien pendant toute la partie, même encore, ça redescend. De quoi j'avais besoin ? De manger. J'ai liquidé les trois quarts du paquet, là.
J'ai bien aidé aussi. Hein,
parce que j'avais besoin de sucre. Hein. Ouais, ça a l'air de vous avoir bouffé de la ressource. Hein. C'est de l'énergie.
Bah, de toute façon,
j'ai vraiment besoin de se nourrir, mais limite affectivement, quoi. Mmh. Mais se passer par la vraie bouffe. Ouais.
Puis bah ah oui, j'étais acquis à la cause d'Antoine, mais dès le début, parce que. Parce que mais je veux pas être comme ça. Vous êtes des... ouais, en fait, personnages étaient rôle... monstrueux.
Ouais. T'étais prisonnier de ton rôle de.
En fait, j'avais deux choix. Soit.
Bystanders.
Soit... Ouais, Bystanders, c'est ça. Ouais. De toute façon, il y a deux choix. Vu qu'il y a une règle qui oblige à être pro.
Dustin.
Pro Dustin. Et du coup, bah.
Oui,
moi, j'avais
c'est
pas...
bien.
Et du coup, t'as deux choix. Soit tu es aussi. Soit tu te contrains au silence. Et techniquement c'est pas très bien parce que tu joues pas de jeu, mais moi j'avais pas la force émotionnelle de suivre le mouvement en fait. Mmh. J'en avais pas l'envie non plus. Ou soit tu participes à ça. Et du coup il y a une scène où il y avait une scène en particulier que j'avais envie de faire où tout simplement je venais aider Killa du en fait la sortir un peu de tous ces adultes là qui s'agglutinaient autour d'elle.
Ouais.
Mais j'ai fait, mais non, je peux pas le faire, c'est contre les règles.
Ah oh, putain.
Oui, il voulait à la fin juste avoir une scène posée tranquille où il me disait qu'il a sa dit de venir manger une glace. Et bah d'ailleurs, on était déjà dans l'envie de manger, tu vois, l'envie de sucre, l'envie
Antoine.
D'affection. Mais effectivement, ouais. ce qui est intéressant dans le système du jeu, c'est que toutes les scènes où je suis présente, Dustin est présent. Donc je ne peux jamais avoir de moment de répit. De pour me reposer, pour me ressourcer.
Et si on aide quelqu'un, c'est on doit aider Dustin. Toujours.
D'accord.
S'il y a quelqu'un qu'on doit aider, c'est Dustin.
Donc là, si je comprends bien, après ce que vient de dire Pierre, j'ai l'impression que le propos de ce jeu, c'est de te faire ressentir l'effet que ça fait d'être quelqu'un qui collabore malgré lui à des exactions...
À un parent abusif, parce qu'on n'a pas prononcé le mot jusqu'au début, mais un parent violent ou violeur. Pour dire les choses clairement, on l'a pas prononcé depuis le début.
Un abus, enfin d'une manière peut-être.
Et
l'omniprésence, il y a une violence en tout cas, c'est sûr.
Et là, l'omniprésence de Dustin au niveau même de la fiction, tu vois, le fait que Dustin on ne puisse pas s'en séparer, ça renvoie bien à la dépendance d'un enfant, tu vois, qui est face à un adulte dont il est dépendant au moins matériellement et puis dont il ne peut pas se débarrasser.
Fabien, garde le micro, tu vas nous donner ton senti.
Oh, alors moi. C'est un jeu qui m'a fait sortir des choses très très sombres de moi. Mmh. Parce que moi j'étais très très bien. Tu vois ce que je veux dire?
Je cite. Bonjour Dustin. Ah, salut Killa. Alors.
Non, mais j'étais bien parce que. Les gens qui me connaissent savent que d'une part, je suis plutôt quelqu'un de. Enfin, je suis plutôt un enfant. Comment dire, un enfant adapté. Tu vois, c'est-à-dire que j'aime bien les structures, j'aime bien. J'aime bien quand ça roule, tu vois, et que j'aime pas beaucoup le conflit. Mmh. Et pendant toute la partie, je me disais, non, mais ça va, toi, tu vois, enfin, je sais pas pourquoi j'ai besoin de bouffer là, mais en tout cas, intellectuellement, je me disais, finalement, est-ce que si j'étais dans ma vie réelle, est-ce que j'aurais réagi face à un truc comme ça, tu vois? Parce qu'il y avait souvent ce mot de, ah, mais c'est la crise d'ado, tu vois. Et moi, j'étais, contrairement à Pierre, moi, j'étais toujours dans excuser Dustin, en quelque sorte, tu vois. Je me disais, non, mais je le comprends, Dustin, tu vois.
Attends, tu parles de Fabien ou de ton
Fabien,
personnage?
Fabien. Oh, c'est pour ça que je te dis que c'est tellement sombre et que, et que c'est très, très glauque. Et que je te dis que c'est pour ça que ça interroge, moi, le fait que, ben, voilà.
Dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles tu réagis comme
voilà,
ça.
Voilà, et ça m'inquiète.
Donc finalement, ce jeu, à terme, il te poussera peut-être à agir la prochaine fois que tu assisteras à une scène de ce type. C'est ça que tu es en train de dire, là. Tu ne sais pas. Ouais, oui, bien sûr, on ne sait pas. C'est comme cette fameuse question, qu'auriez-vous fait pendant la guerre?
C'est ce que j'espère. Et surtout, un des trucs que te fait remarquer le jeu, c'est qu'en fait, si tu es face à un abus, c'est très rare que tu te rendes vraiment compte que c'est abusif. Ouais. Mais inversement, moi, ça m'a aussi renvoyé à des scènes que j'avais vues comme enfant. Ouais. Je me souviens qu'il y a un membre de ma famille, je vais le dire le plus neutrement possible, qui cognait ses enfants. Voilà, ça va, je peux le dire, mais c'était pas dans ma lignée. Donc, et moi, comme gosse, je me disais, mais ça, c'est pas normal, tu vois. Enfin,
ouais.
Et mes parents ont mis beaucoup, beaucoup de temps à dire, bon, ben, tu calme-toi, quoi, tu vois. Enfin, stop. Tu peux pas lui mettre tous les jours des torgnoles. Et ça, j'en veux à mes parents, tu vois. Et ça, et inversement, le, et à un moment, Antoine, t'as fait, tu vas me lâcher à la longue. Moi, ça m'était aussi arrivé. À un moment, j'avais des activités dans, il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de me faire des compliments, d'être toujours sur mon dos et tout. Et comme enfant, je me disais, mais m'emmerde, stop, quoi. Et donc, une fois, j'ai lâché exactement le même mot. J'ai dit, mais ta gueule, lâche-moi, quoi, tu vois. Mmh. Et il y avait un adulte qui était à côté qui disait, mais on parle pas comme ça à un adulte et tout. Donc, tu vois, des situations qui, si elles s'étaient répétées, auraient été pour moi des situations abusives, ou si ça avait été moi qui avait été considéré, enfin, qui était dans le truc. Mais, fortement, heureusement, ça n'est pas le cas. Mais enfin, ça te renvoie aussi à
du vécu.
À du vécu, où tu te dis, putain, je ne suis pas passé loin de situations très chaudes. Donc, comment je me sens? Pas très bien, parce que j'ai l'impression d'avoir été d'avoir révélé des trucs un peu de, comment dire, de la banalité du mal, quoi, tu vois, la Eichmann en moi, tu vois, obéir simplement aux choses, le microfascisme, les choses tournent et puis on se rend pas compte de l'horreur. De quoi j'ai besoin ben là, j'ai commencé déjà à prendre une bonne dose de sucre. Je peux te dire que quand le podcast sera fini, je serai content, quoi. Et j'ai peur aussi de ce que ça renvoie comme image de moi quand je sors tout ça dans le podcast. Tu vois, c'est essayer de jouer le jeu d'être le plus
honnête possible. François.
Alors moi, c'est compliqué. Je sais pas comment l'ont ressenti mes camarades. Moi, j'ai l'impression d'avoir mal joué. C'est une question qui m'a un peu obsédé tout le long du jeu et qui m'a posé quelques problèmes d'immersion.
Qu'est-ce que ça signifie mal joué, là? Tu détailles un peu.
Je sais pas.
D'avoir été à côté du jeu,
j'arrivais pas à me mettre dans mon personnage, en fait. Tout bêtement.
C'est un système de défense, en fait.
Ce qui est un problème assez général. Et après, j'ai un peu l'impression d'avoir joué quand je me suis forcé à rentrer dans la fiction, quand même, histoire de pouvoir apporter quelque chose, notamment parce qu'à un moment, Joe ne pouvait pas tout faire. il a beaucoup lancé la partie au début et il a fini par nous lancer la balle une fois qu'il avait conclu son arc d'une certaine manière.
Je ne me suis même pas rendu compte de ça, j'avoue. Mais...
C'est le ressenti que j'ai eu quand même, beaucoup. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vu. Mais,
si, parce que tu as eu une dynamique, tu sais, où tu essayais de te rapprocher de Killa, jusqu'au moment où au moment de la scène du don du sang, où elle t'envoie te faire chier. Quoi.
Ouais.
Et puis, voilà.
Et après ça, Joe lui-même n'est plus apparu. Tu as joué quelques autres PNJ, mais ton personnage principal n'était plus là. Et celui qui est apparu, vu que le personnage de Pierre restait très silencieux, celui qui est devenu le bystander, forme d'adversité en quelque sorte, c'était plutôt moi. Et j'ai un peu l'impression d'être resté sur un stéréotype de figure d'autorité un peu nul.
D'être devenu un monstre ou une caricature pour échapper à une certaine difficulté.
Ouais, j'ai pas l'impression de m'être vraiment mis de moi-même dedans. Donc
j'aurais joué pour ça exactement comme toi.
C'est peut-être pour ça que je suis le seul à pas m'être goinfré direct, même si j'ai un peu faim tout de suite. Mais enfin, j'ai quand même ressenti ce que le jeu faisait autour de la table en parallèle. Quoi. J'étais quand même au moins observateur de la fiction. Ouais, enfin, il marche le jeu, ça c'est sûr.
Antoine,
je voulais juste dire que c'est, je pense, que c'est complètement normal cette peur d'être dans le stéréotype et que les bystanders comme Dustin Nikila peuvent le ressentir à plein de niveaux parce que le jeu pousse à considérer les autres comme des stéréotypes et à baser ses jugements sur des stéréotypes. Donc c'est normal que ça soit compliqué d'être dans une forme de sincérité et de crédibilité. De trouver cette crédibilité là, c'est pas évident quand on part de stéréotypes et de jugements. Je sais que c'est pas forcément évident de jouer les bystanders, notamment, qui ont peu de place pour développer leur personnage en tant que tel, et donc ça reste des bystanders extérieurs, et je sais que j'aurais eu du mal en tant que bystander aussi à...
D'où ta question que tu posais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas ennuyé en tant que bystander? On y reviendra.
Mais du coup, c'est peut-être plus, est-ce que c'est difficile d'être bystander que... Enfin, bref.
Non, moi, c'est aussi à cause du personnage lui-même que je jouais, qui au départ, au moment où on a lancé le pitch, me semblait intéressant. Et puis, très vite après, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément une culture suffisante des institutions ou des mouvements associatifs, etc., pour pouvoir engendrer du contenu cohérent avec le personnage.
D'accord.
Donc, c'est un problème de connaître pour bien jouer.
Un choix de casting peut-être aussi, quoi. Jérémy, donc toi, je sais que tu vas nous donner un ressenti maintenant, puis que tu écriras un long commentaire sous ce podcast quand il sera diffusé pour dire qu'en fait non, et ceci et cela, comme ce fut le cas pour La Vie de l'Absent.
Déjà, je voudrais vous demander qui est papa autour de la table.
Ah, très, très bonne question.
Voilà. Eh bien... Je suis le seul papa autour de la table, donc j'avais un rôle... c'est pour ça que j'étais pas forcément chaud d'être Dustin, parce que je sentais bien où le jeu allait amener, je sentais bien que du coup, j'allais avoir un rôle un peu particulier là-dessus.
T'en es très bien sorti.
Donc du coup, il y a eu des résonances.
Tu étais terrifiant.
Il y a eu effectivement des résonances à pas mal de choses, parce que... Ah, ça y est, je bloque. Ah, pour moi, il y a deux choses dont le jeu est mis en avant, dans lesquelles j'ai ressenti. Il y a l'aspect déni de chacun, et donc aussi le déni de mon personnage. Alors, le déni, déjà, justement, parce qu'il y a les spectateurs qui ne voient pas du tout la scène invisible. Je ne sais même pas si les personnages sont censés le ressentir. Enfin,
scène invisible, c'est excellent comme expression.
Oui, ils sont là. Ils sont spectateurs, mais comme on voit un film où il y a une scène atroce, ignoble, dans laquelle on est là et puis on ne peut rien faire. Et c'est ce qu'ils ont subi. Et je pense que j'aurais joué de la même manière. Je pense que j'aurais joué comme Pierre, en fait. Au bout d'un moment, je serais mis dans mon coin. Je ne peux pas participer à ça. Le déni aussi de moi-même, parce que du coup, à aucun moment, j'assume ces scènes invisibles. Je fais comme si elles n'étaient pas là. Je fais comme si j'avais toujours raison. Je dis à un moment à Akila, quand est-ce que je t'ai insulté? Oui, verbalement, dans la partie, je n'ai jamais dit un gros mot. Mais qu'est-ce que j'ai fait derrière qui aurait pu être pire qu'une insulte? Qui serait une forme d'insulte puissance, enfin, je sais.
Et quand il me dit, quand est-ce que je t'ai insulté? Moi, je suis désarmé parce que j'ai dit... Il n'y a pas que les insultes, c'est tout ce que je pouvais dire comme élément. Mais c'est vrai que toutes les circonstances font que dans les discussions, la répartie est de ton côté, voilà. Dans le contexte.
Et donc oui, Denis, parce que toi aussi, tu ne peux pas parler de tout ça. Et la deuxième chose qui est apparue, c'est le côté pervers du coup, de toute cette situation. On a une mise en scène. Une introduction, voilà, je suis le bon beau-père de famille qui veut du bien à sa belle-fille, je le montre socialement, même si j'y vais un peu brusque, mais du coup les gens me suivent, mais en même temps, petit à petit, ça vient beaucoup plus insidieux, et puis ça vient complètement, il y a eu des petits ricanements, parce que ça vient contradictoire, ce que je dis, ce que je fais, parce que j'ai toujours raison, tu as toujours tort. Donc même quand tu vas à quelque chose qui va dans le sens que j'aurais pu attendre, c'est pouf, je te recasse derrière et t'es toujours piégé. Et comme je sais que je vais avoir la pression sociale autour de me. Avec moi,
toi, ouais.
Je peux que la briser. Et moi, je peux avoir que le pouvoir. Ouais. Donc là, le côté grisant. Et en même temps, là, le côté, c'est ignoble. Il y a des moments, notamment la dernière scène. Je ne pouvais plus rien répondre parce que je ne pouvais pas aller plus loin. À un moment, je dis, ça y est, faut que je la laisse tranquille, cette pauvre Kira. Qu'est-ce que je vais dire de plus qui ça n'irait pas avec le personnage, mais c'est, de toute façon, non, il y a une limite.
Abusé, quoi, ouais.
Il y avait une limite. Je pense que j'étais assez loin, en tout cas pour moi. Des fois, je sais, en tant que père, voilà, on est fatigué, il y a une dispute, et il y a des moments où on se dit. Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est pas du tout contradictoire par rapport à ce que je fais penser, par exemple. Arrête de crier. Et puis tu réagis 3 heures plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est complètement contradictoire. Et puis tout de suite, tu pars finir schizophrène avec un père comme ça. Tout de suite, tu culpabilises. Sauf que là, le jeu te dit, non, continue dans le délire des informations contradictoires.
Parce que tu es dans ton droit de le faire.
Et parce que je suis dans le droit de le faire.
Alors moi, ce que ça
parce
me...
qu'il y a personne qui va t'arrêter, en fait. C'est plus encore que tu es dans le droit, c'est que le droit t'est donné par le silence des autres. Moi, ce qui était épatant et ce qui m'a vraiment, il faut voir aussi comment on était au fond du jardin, donc en pas cercle bien. Avec
dans un réunion d'alcooliques anonymes.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et parce que j'avais prévu aussi la possibilité, le jeu le propose de jouer en se levant, tu le jouer de façon GN, live action.
D'accord.
Et en fait, on était 6 à jouer et il y avait Antoine et Jérémy étaient l'un en face de l'autre. Et les autres étaient, nous quatre, les spectateurs, on était installés chacun d'un deux à deux de chaque côté. Et il y avait des moments de silence qui me rappellent exactement les moments. Je sais pas si t'as déjà vécu ça quand t'as un couple d'amis qui s'engueulent, quoi. Et même quand tu sais qu'ils, enfin, quand t'as bien conscience qu'ils sont pas dans une relation abusive et qu'ils sont dans une relation d'égal, quoi. Mais parfois ils s'engueulent et toi, tout ce que tu fais, c'est de ne rien dire, quoi.
Ça ne concerne pas.
Ça ne concerne
pas. Mais cela ne nous concerne pas.
Mais parfois, parce que effectivement, ça ne te concerne pas, tu vois. Enfin, c'est ça ce qui est vicieux, c'est qu'il faut arriver à différencier les fois où effectivement ça ne te concerne pas et les fois où il faut dire, bon, ben là, d'où le, ça revient effectivement à, je sais plus qui citait le bystander effect. Donc le fait que quand il y a quelqu'un qui va mal et qu'il y a plein de gens qui ne font rien pour cette personne autour, ben, t'as tendance à ne rien faire non plus, à te conformer, à ne pas intervenir.
Alors par contre, ce que j'observe là, d'après vos retours, avant de passer la parole à Valentin, c'est que quand même on voit qu'il y a une, c'est un jeu asymétrique, au sens où les Killa, Dustin et les backstanders ou bystanders,
les spectateurs, bystanders,
sont dans un jeu différent. Ils ont pas du tout, chacun a un propos différent. Tu vois, Jérémy, il revient avec un propos de
prendre le micro du coup. Il y a trois rôles différents,
de trois gameplay différents, quoi.
Exactement, ouais, c'est ça. Puis tu vois, à la fin, ils vont ressortir une expérience du jeu qui mène à, tu vois, Jérémy pourra dire, bah, le propos de ce jeu, c'est de nous mettre dans la situation d'un père abusif. Killa pourra dire, bah, le propos de ce jeu, c'est de vous mettre dans la situation d'une personne dominée par un père abusif plus l'intégralité de la société. Et les bystanders, les spectateurs, pourront dire, bah, le propos de ce jeu, c'est de montrer l'impuissance ou la façon dont on se conforme, comme vient de le dire comment tu disais, l'effet
bystander effect.
Bah oui, voilà,
je sais pas comment il est traduit en français, mais c'est un effet de psychologie sociale assez
connu. Tout à l'heure,
diffusion de responsabilité, c'est à dire que s'il y a 100 personnes qui regardent un noyé, il a peu de chances de survivre que s'il y a deux personnes qui le regardent noyé.
Et donc, au passage, le conseil qu'on donne pour lutter contre ça, puisqu'on en est à parler de ça, c'est de toujours prendre quelqu'un à partie dans la foule, dire « Vous, là,
voilà,
aidez-moi !»
Si t'es la victime,
si vous êtes victime,
ouais, c'est ça.
Donc voilà, on en profite pour en parler. Valentin, quel est ton ressenti? Comment tu te sens? De quoi
alors,
t'as besoin?
Donc déjà, premier truc, donc moi, je me sens très très bien, je suis OK, il n'y a pas de trouble. Je voulais juste signaler un tout petit truc, c'est que faire un débrief comme ça avec les micros, ça biaise un peu le côté sécurité émotionnelle.
Ça, tout
donc voilà, je veux juste le préciser. Pour
que les auditeurs en sont conscients. Hein,
enfin, voilà, mais bon, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui vous fait... Est-ce que vous êtes sûr que je suis honnête, du coup? Que l'effet podcast. Bref. Donc du coup, au début de la partie...
On fait confiance, Valentin.
Au début de la partie, je voyais assez bien où je allais, en fait. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de jouer complètement dans le sens du jeu. Donc, je sais pas si ça a marché ou pas, mais c'est pour ça que j'ai essayé de...
Aussi, Antoine, en dehors du
un type
aussi.
Sympa, mais complètement ignoble.
Un type sympa, mais complètement ignoble.
Ah oui, un autre truc que je voudrais dire, ce serait bien, je pense, pendant le podcast, de mettre que ce podcast a des du contenu.
Oui, bien sûr. Ouais.
Parce que là, tout ce qu'on dit peut être.
Mais je pense que vu le titre du jeu, les gens pourront.
Enfin voilà, c'était juste un autre.
Oui, il vaut mieux prévenir que guérir.
Oui, tout à fait.
Donc voilà comment je me sens. Et j'ai besoin d'en parler, voilà, discuter avec vous. Il y a un élément aussi, c'est que il y a un moment donné, il va y avoir un bang dans le podcast. Parce que j'ai des informations peut-être que vous n'avez pas. Je ne sais pas si tu as lu le post G+ de P.H. Lee à
lequel?
Propos de la X-Carte.
Ah non, ben...
Eh bien voilà, il faudra en parler parce que c'est important.
D'accord, ok.
Vas-y alors.
J'attaque direct?
Bah si tu veux.
Ok. Donc le principe, c'est que P.H. Lee a publié un post Google+, très 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 long.
P.H. Lee, on rappelle que c'est Ben Lehman. Hein,
ouais. Parce que sinon c'est... dans lequel il parle de PTSD, donc Post Traumatic Syndrome Disorder.
Ouais.
Il explique que dans ce genre de cas, et donc ça c'est bien avant la publication du jeu, c'est il y a peut-être un an ou quelque chose comme ça, un post dans lequel il explique que, en fait, quand il y a des situations complètement abusives et des traumas, il y a des situations qui se mettent en place d'invisibilisation. Ok. Donc là, c'est un petit peu le propos du jeu, de dire que bah voilà, on n'en parle pas, personne n'en parle, on ne le voit pas, etc. Par exemple, s'il y a eu, un viol, eh ben personne n'en parle. C'est comme si ça n'avait jamais eu lieu, comme si ça n'existait pas. Et il dit aussi que ça, c'est une situation absolument atroce, que c'est inhumain de faire ça à quelqu'un. Donc ça, ça se comprend bien, hein, il explique beaucoup de choses à ce sujet. Et il dit, et quand on fait par exemple usage de la X-Card, en fait qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de triggering apparaît, et on dit, non, on n'en parle pas. Surtout on n'en parle pas.
On crée une zone de silence, voilà, et ça fait que tout le monde peut imaginer ce qui se passe, et ça peut être pire, c'est ça l'idée?
Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était déjà quelque chose. Enfin, j'ai le souvenir quand Maxime était venu à la cellule parler justement de la sécurité émotionnelle. Il me semble que c'était déjà une contradiction à laquelle il avait dû répondre pendant le podcast. Ouais. Soulager la plaie, elle la rouvre en fait.
C'est un truc qu'on utilise aussi en mini pour toujours, mais c'est un mécanisme d'horreur en fait que de. Tu sais, c'est comme quand c'est toujours. Les films d'horreur, ça peut faire peur.
Fabien.
Mais fermer les yeux, parfois, c'est pire encore, parce que tu imagines des choses bien plus horribles que ce qu'il y a à l'écran.
Dans ce jeu, il y a carrément la mécanique.
Et c'est un peu. J'ai l'impression que c'est de ça dont tu parles.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une critique de la X-Card comme objet de gameplay, quoi. C'est-à-dire que quand.
Ce qui ne veut pas dire que c'est une critique de l'idée de sécurité émotionnelle.
Non, bien sûr.
Hein, parce que souvent, on a tendance à confondre dans le débat.
En fait, l'idée, c'est pour arriver à une. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'outils. Ça vous avez dû en parler dans le podcast sécurité émotionnelle, je ne crois pas l'avoir entendu, mais bon, il y a une idée qui c'est qu'il n'y a pas d'outils miracle, quoi.
Non.
Pas d'outils miracle, et il y a même des outils parfois leur utilisation est complètement contre-productive.
Il y a un effet pervers. Ah. Oui, il y a une idée qu'on avait bien développée, c'était que la sécurité émotionnelle, c'est une obligation de moyens, mais pas de résultats.
Exactement.
C'est-à-dire que il faut qu'en tant qu'auteur, tu aies une réflexion sur le contenu de ton œuvre.
C'est de l'ordre éthique, quoi.
Voilà.
Pas de bonne solution.
Mais après, tu peux pas promettre que jamais, même la partie la plus lambda du jeu le plus mignon et le plus le moins dangereux du monde n'aille pas là-dedans.
Ce jeu est une critique de la X-Card.
Une critique, pas une critique pour dire que c'est quelque chose de mauvais, c'est une réflexion critique aussi, je pense, enfin c'est une hypothèse que j'ai.
Excellent.
Parce que les dates en fait concordent, une réflexion critique au sujet de la X-Card. Et je veux dire aussi que dans tout ce poste-là, il y a cette idée que pour des gens qui ont subi ce genre de trauma et qui ont été enfermés dans le silence, quand ils arrivent à reprendre contact avec des cercles sociaux, éventuellement faire du jeu de rôle, et que là, il y a l'utilisation de la X-Card à un moment donné pendant la partie, ça peut être un choc émotionnel terrible qui fait ressortir des choses, si vous voulez, qui ont été combattues à un moment donné.
La X-Card, c'est la possibilité de la loi du silence, quoi, de l'omerta.
Ouais. Et donc, la question est... entière, c'est-à-dire à quel point, voilà, est-ce que c'est pas un outil qui, pour des personnes qui ont subi des traumas avec ces systèmes c'est systémique dans le sens...
Systèmes sociaux, quoi.
Voilà, des systèmes sociaux d'invisibilisation, quoi. En fait, les gens qu'on cherche à protéger le plus, c'est les personnes les plus fragiles, et bien peut-être que cet outil-là, et bien c'est le pire pour les personnes les plus fragiles, peut-être. C'est une réflexion critique, tu vois.
Oui, bien
c'est,
sûr.
Très
bien.
Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire, parce que je n'y connais pas grand-chose de plus.
Et donc du coup, je vois pas en quoi ce jeu, tu vois, parle de la X-Card, parce qu'il dit bien.
Il parle pas de la X-Card, mais il parle de l'invisibilisation de la violence et de l'abus en fait. Tu vois.
D'accord. Okay. Parce que le jeu s'appelle pas There Is No X-Card.
Bien sûr, je sais bien.
Ouais. Mais on a quand même des scènes qui sont supprimées du jeu d'après les règles à cause d'éléments qui triggerent dedans.
C'est-à-dire
que ça ressemble à une utilisation de la X-Card sur ces scènes-là, éventuellement.
On peut
le visualiser comme ça.
C'est comme si c'était une X-Card à chaque fois qu'il y a un élément trigger. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe si on faisait une X-Card à chaque fois qu'il y a un élément de trigger, tu vois.
Ah, d'accord. Oui, non, mais là, du coup, je comprends très, très, très bien le point.
Alors, c'est une hypothèse. Donc, c'est simplement qu'il y a ce poste-là qui
sur
détaille.
Sur Google+.
C'est ça. On mettra en lien. Et... tu vois, je m'interroge, quoi. Tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Moi, en termes de fiction, ça me fait beaucoup penser aussi à. Ça m'évoque deux références. Est-ce que vous avez vu la série 13 Reasons Why sur Netflix?
Flavie l'a vu, mais pas moi.
Donc, c'est dans le premier, dans le premier épisode, donc je ne spoil rien. C'est une jeune femme qui s'est suicidée et qui, avant de se suicider, a envoyé 13 enregistrements.
Ouais.
Et sur chacun des enregistrements, c'est une des raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. et ça décrit tout le système social de son lycée américain. Et de, notamment donc, la dimension de silence, c'est-à-dire il se passe des choses et les gens refusent d'en parler, est extrêmement forte.
Donc la série suit une personne qui reçoit ses 13 cassettes. Chaque cassette, chaque enregistrement est ciblé sur une personne et donc du coup va découvrir petit à petit le secret aussi lié à cette personne vis-à-vis de... je ne sais plus comment s'appelle la victime...
Anna.
Anna, voilà,
Anna.
C'est ça.
Anna Baker.
Très bien, très bien.
Très bonne série, mais très, très dure aussi.
Alors moi, j'ai quelques... Il y a
un truc qui vient juste pour compléter cette idée, mais très rapidement. Il y a des pratiques en jeu de rôle dans lesquelles on va dire, on va mettre un voile sur des éléments. On parle pas de ça.
Oui.
Et donc, quand ça arrive dans la fiction, on n'en parle pas. Mm-hmm. Par exemple, le sexe. Ouais. En fait, c'est pareil, tu vois. C'est le même système. C'est-à-dire, on joue, et le sexe. Non, on n'en parle pas. Mm. Hop, invisibilisation. On peut imaginer tout ce qu'on veut.
Ouais. Tout à fait.
Et après, on reprend comme si de rien n'était, etc. etc. Donc, autre pratique, si tu veux, de sécurité émotionnelle qui, en fait, est à questionner.
Est à questionner, oui. Très intéressant. Très, très bien. Moi, j'ai une petite question d'ordre général. Quand on avait testé donc, le jeu d'Avril Alder, justement, avec Tommy, c'est marrant, quelle coïncidence, le mapping game dont j'ai oublié le nom, quelqu'un s'en souvient du nom ?
Quiet Year,
voilà. On avait trouvé qu'il y avait un problème de propos explicite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une règle qui dit concrètement les gens n'ont pas le droit de parler et le propos du jeu, c'est que « Ah, regardez, la communication, ça marche mal quand on est... » Bon, là, bah oui, mais excusez-moi, mais moi, en vous écoutant là, c'est la critique que j'ai envie de faire d'entrée de jeu à ce jeu. Encore une fois, je n'y ai pas joué. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, vous allez me répondre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce jeu de propos explicites ? C'est-à-dire, je ne sais plus, il y a, à un moment donné, vous avez cité une règle comme quoi les gens qui aident n'ont absolument pas le droit d'interférer en faveur de Killa. Et puis, tout le monde se dit « Oh, regardez, c'est quand même... » Enfin, est-ce que vous voyez
c'est
ce que je veux dire ?
C'est pas tout à fait ça qui est dit. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai compris la règle. La règle dit...
Oui, forcément, on est un salaud quand le jeu nous demande de l'être. Hein, ça, y a
la règle dit que les passants, enfin les bystanders, ont une préférence, socialement parlant, on va dire, enfin, ils ont une meilleure image de Dustin.
Alors pourquoi Pierre disait tout à l'heure que le système lui interdisait de venir aider Killa ?
En fait, il n'y a pas une interdiction stricte de venir aider, je crois pas.
Plus exactement, Pierre, ce qu'il essayait de faire, si tu me corrigeras, c'est qu'il essayait de passer du temps avec Killa pour l'aider à faire un mécanisme qui, par ailleurs, est autorisé à Dustin, qui est le venting, donc le moment où émotionnellement tu te décharges. Sauf que les règles empêchent, obligent que Dustin soit toujours présent. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas le jeu te demande d'être un salaud, c'est que le jeu te met dans un système social qui fait que, eh ben,
ma fille est chiante.
Voilà.
Elle à aucun moment elle peut dire à quelqu'un en off, mon beau-père est chiant.
Voir mon beau-père me bat.
Ah bah rien que ça.
Tu vois. Alors que
qu'est-ce qui vous empêchait vous en tant que joueur de dire à Dustin non mais tu trouves pas que ton comportement est,
alors,
est
c'est
zéro
tout à, c'est tout à fait possible.
C'est pas parce que tu fais du don de sang et que t'es démocrate que t'as le droit de faire du mal à Killa. Qu'est-ce qui vous empêchait
à mon avis c'est possible qu'il y ait une intervention comme ça à un moment.
Oui.
Par contre il y a quand même une règle qui vient un peu en opposition avec ça, c'est celle de résolution de conflits où Dustin peut faire appel à un bystander et le bystander est un peu forcé
d'être
de son côté.
Plus exactement, ce qui se passe, c'est pas exactement ça. Ce que disent les règles, c'est si Dustin est overwhelmed, donc comment tu l'avais traduit,
dépassé par la situation.
Il est dépassé par la situation. Les bystanders peuvent intervenir, tu vois, pour régler le conflit.
On va voir qu'ils peuvent, oui. Mais c'est pas explicitement
qu'est-ce
obligé.
Qui se passe ? Ils règlent le conflit localement, mais tant qu'ils ne peuvent pas... en fait, la vraie règle sournoise, c'est que Dustin est toujours présent. Tu vois, et qu'à aucun... Et donc, à aucun moment, Killa ne peut s'exprimer de manière libre.
En fait, les règles créent un cadre qui va créer ses comportements véritablement, parce que le cadre, c'est que Dustin... est toujours en contrôle de la situation parce qu'il est toujours présent auprès de sa belle-fille et qu'au départ, socialement, il y a une préférence du père.
Tu vois, là, c'est ça que je craignais. Je craignais que les règles ne se contentent pas de créer un cadre, mais disent aux joueurs comment se comporter. Si ça fait partie du vide fertile, c'est-à-dire si les règles induisent naturellement ces comportements de suiveurs, etc., là, ok. Mais s'il y a une règle qui dit concrètement vous êtes des suiveurs et vous devez donner raison à Dustin, alors là, c'est pas bon, quoi. Alors, d'abord Antoine, ensuite Pierre, ensuite Valentin. Antoine,
deux choses de plus là-dessus, on a constaté ça à un moment donné où il y a eu un début de scène entre juste Joe et Killa,
ouais,
dans laquelle c'était dans un espace public, et donc il était établi que Dustin pouvait,
était pas loin.
Était pas loin. Et on a joué avec ça dans le sens où moi je suis parti du principe que Killa pensait qu'elle parlait en privé,
ouais,
mais en fait Dustin écoutait la scène complètement et est arrivé comme s'il avait tout entendu. Et Joe, du même coup, a dit ah bah Dustin. Bonjour. Donc il y a même des cas de figure où on joue un peu avec ça, avec cette omniprésence de Dustin, donc le fait que je peux pas parler de lui à quelqu'un en privé. Et surtout, ce sera quelque chose d'important à développer après, c'est que tous les bystanders, tout ce qu'ils font vis-à-vis de Kira, le font en pensant faire ça pour son bien.
Et oui.
C'est ça la grande différence, c'est que personne ne dit déjà tout ce qui pourrait aller de vraiment mal dans la relation Dustin Kira, c'est passé sous silence, donc les bystanders ne le savent pas. Et toutes les interventions de bystander qui étaient présentes étaient de l'ordre de « Ah, mais nous, on veut essayer d'aider ton beau-père et toi, est-ce que ça se passe bien ?»
Mais comme Dustin peut être potentiellement présent, voilà, on a peur de le faire, parce qu'on donnerait des billes à Dustin pour lui faire encore plus de mal. C'est ça que tu voulais dire, Pierre.
Non, mais pire, ils le font devant lui.
Ils le font, ok. Pierre, c'est bien ça, hein, si je t'ai bien compris.
Oui, et puis après, quand je réfléchis un peu après la partie, j'ai un gros sentiment de culpabilité, en fait, de ne pas être jusqu'au bout dans ma démarche de vouloir...
De ne pas l'avoir fait quand même.
De ne pas l'avoir fait et parce qu'il y avait les règles.
D'accord.
Donc voilà.
Valentin, tu voulais intervenir ?
Ouais, je voulais juste te dire que moi, il y a un petit problème effectivement de propos explicites. C'est parce que voyant où le jeu allait, j'ai joué pour que ça aille bien.
Pour que ça aille dans ce sens.
Il y a peut-être effectivement un peu de prophétie autoréalisatrice.
Ouais. Alors après, si jamais je voulais jouer de manière très honnête, le problème c'est que... Bah en fait on aurait tous dit oui, on voit bien où le jeu veut en venir, et on aurait tous fait non écoutez, on s'arrête là, on discute, il y a un problème, on discute avec Dustin, on discute avec Killa, on va voir la police, on va voir des assistantes sociales.
Ok, mais mets-toi dans la position, voilà. Enfin,
Fabien puis Antoine.
Mets-toi dans la position des bystanders. Je pense que ça c'est, si tu veux, nous en tant que joueurs on le savait.
Oui, mais tu vois, je dois
mettre de
anesthésier,
côté. Oui, quelque
un
chose.
Truc que... Du coup, je ne peux que jouer un rôle de manière, tu vois,
ok, quoi. J'entends ce que tu veux dire, mais néanmoins, en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que en tant que personnage fictionnel, si tu cherches, tu vois, tu regardes le comportement de Dustin et tu dis, bon, est-ce que ça, c'est un comportement normal ou c'est un comportement anormal? Tu vois, à quel moment ça pose problème? Qui ça est un vrai truc que moi, je me pose même au quotidien. Parfois, je marche dans la rue, puis tu vois des gens qui s'engueulent, et tu dis, est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens pas? Ça m'est arrivé d'intervenir où...
Je vais taper la gueule. En tout cas, c'était un peu tendu.
En tout cas, ça valait vraiment la peine d'intervenir. Mmh. Puis d'autres fois, t'interviens et puis tu te rends compte que, enfin, tu passes pour un con, quoi, parce que c'était pas. Mais arriver à faire cette distinction-là, c'est une vraie difficulté. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a un présupposé infect fondamental qui est que la plupart des gens sont normaux, en quelque sorte, tu vois. En tout cas, il y a un présupposé que... alors, c'est peut-être du stéréotypisme, mais que...
Dustin n'abuse pas.
Et voilà.
Et les scènes centrales sont appelées les scènes ordinaires. Les scènes où il y a le plus de conflits, où il y a les conflits entre Dustin et Killa.
Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que... J'entends évidemment ce que tu dis, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te poses comme personnage dans la fiction, l'enquête pour te dire... Est-ce qu'il est à quel moment il est problématique ou pas? Elle est vachement dure, tu vois.
Je savais que j'allais foutre la merde avec cette question.
Moi aussi j'ai vraiment senti cette scission entre moi joueur qui ressentait une espèce d'horreur rampante qui se cachait derrière et d'une certaine manière moi joueur j'essayais de le faire voir au personnage. Mais j'y arrivais pas. À un moment, le personnage, il est dans un truc ordinaire. Il voit un père de famille qui est certes un peu, voilà, mais c'est un peu conservatiste. Mais c'est une ado, elle fait chier, voilà. C'est bon, ça passe.
C'est normal,
Valentin.
Tout ça est normal.
En fait, Valentin,
Puis le public va intervenir.
Ouais, on est un peu dans une situation d'ironie dramatique où nous-mêmes savons ce qui se passe en fait, parce qu'on n'est pas dupes du jeu.
Ouais.
Et pas nos personnages. Donc moi, ça me met personnellement dans une situation complexe à jouer. Mmh. Parce que. Voilà, c'est.
Mais complexe
c'est...
ludiquement, ouais, ou, ludiquement. Complexe parce qu'elle est inconfortable.
Non, c'est pas inconfortable.
D'accord.
C'est-à-dire que, bah voilà, soit je joue les enjeux de mon personnage, mais j'ai l'impression de faire de l'acting, tu vois, et de. Bon.
T'as l'impression de faire sagement ce qu'on te demande.
Voilà, c'est ça. Je fais sagement ce qu'on me demande. Et voilà, soit je me dis, non, mais en fait, je comprends rien ce qui se passe. Je fais glisser les enjeux que je sais dans ceux de mon personnage. Et là, j'ai la sensation d'avoir une agentivité, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est juste ça.
Le public voulait intervenir. Jérôme.
Salut. Tu voulais pas intervenir, Antoine, avant ?
Allez, vas-y, Jérôme, lâche-toi, okay, lâche-toi, okay. Fais-toi plaisir, il aura l'occasion.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux comme ça qui cadrent beaucoup, mais c'est pas pour ça que ça en fait des jeux ratés.
Ah oh bah, disais, oh là, Marie, ça que... c'est ton point de vue. Hein.
Ah, bah, oui, non mais je pense à des jeux de rôle grandeur nature comme Plan Social, par exemple, qui sont très cadrés, où on te dit quoi jouer scène après scène. En fait, le but, c'est pas de te manipuler. Le but n'est pas de te manipuler et de te
dire... Ah non, mais justement...
Non, mais attends, parce qu'on dirait que c'est ce que tu voudrais. On dirait que tu voudrais un système dont le vide fertile te pousse à être un salaud malgré toi. Mais alors que là, le but, c'est plutôt de te faire ressentir un truc comme devant un film ou juste en vivant la situation. Effectivement, c'est pas le même plaisir. Je peux comprendre que ça déplaise.
Non, mais ce que j'aime pas, Jérôme,
c'est
quand c'est trop explicite, justement, l'effet de me faire ressentir, ça marche pas. On peut pas m'obliger à me faire ressentir quelque chose, mais on peut me montrer un ensemble de choses qui me font ressentir ces choses. Tu vois ce que je veux dire, la différence ? C'est comme si je te disais, vas-y maintenant, là, ressens ça. Ça marchera pas.
Là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est que dans Plan Social ou dans Braquage, qui est dans le même genre, en GN, on ne sait pas à l'avance la fin. Alors, mais là non plus. Ou... Donc voilà, mais au final... Enfin,
ça c'était un choix de ma part. De pas révéler l'épilogue à la fin et puis...
Ouais, mais, moi je sais pas vous, mais j'avais quand même des gros doutes quoi. Des gros doutes.
Bah oui, évidemment.
Enfin, je veux dire, c'est,
ah bah oui, évidemment.
On n'est pas la fin,
on,
mais...
On savait que ça allait finir mal, mais on n'avait pas le détail.
Hmm. Bah ça n'a pas fini si mal que ça, on savait que ça pouvait finir mal.
Lui il sait comment ça a fini, c'est...
Voilà, c'est ça.
Antoine, oui, j'ai une petite question pour toi, mais vas-y. Non, okay. Vas-y.
Bah juste que je voulais rajouter tout à l'heure sur ce que Valentin disait, c'est que oui, on voit très vite où le jeu veut en venir, et cette posture compliquée ludiquement, je la comprends, mais moi j'avais envie de jouer la partie quand même, tu vois. J'avais pas envie que ce que tu suggérais, que les bystanders puissent faire, ah mais on va appeler la police ou essayer de trouver un intermédiaire. Je voulais aller au bout, même si je sais où ça va aller et je sais quel genre d'émotion ça va m'amener. Bah, je veux les ressentir, ces émotions, tu vois. Je veux vivre l'expérience jusqu'au bout. Et moi, c'est un jeu, ça m'intéresserait d'y rejouer en ayant un rôle de bystander ou le rôle du beau-père pour un peu explorer tout ça vraiment. Alors, c'est peut-être mon côté maso, mais moi, j'apprécie vraiment aller au bout de ça.
Fabien aussi, ouais. dit-il en dehors des micros. François, tu voulais intervenir ?
Moi, vraiment, ça m'a donné cette impression de voir comment est-ce que le cadre permettait aux bystanders d'être les bystanders. J'ai vraiment eu ce ressenti de voir que, alors pas d'être un bystander simplement parce que moi j'étais pas dans l'ignorance, mais du coup de constater que le bystander, ouais, dans lequel j'étais n'avait aucun moyen de constater l'horreur qui pourtant était là.
D'accord. Ouais.
Et, oui, et c'était vraiment évident.
C'est
et
ça.
Il y avait un espèce de malaise profond.
Exactement.
Dans cette dichotomie qui est ce qui met mal aussi dans ce jeu.
Moi, par rapport à Valentin, tu vois, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait, mais je n'avais pas les.
Il y a pas la preuve.
Je n'avais pas la preuve. Voilà, c'est ça.
Pas la preuve.
Et c'est ça ce qui était. En fait, à plusieurs fois, j'ai souhaité que Jérémy et Antoine
aillent trop loin,
qu'ils aillent loin,
vraiment loin, tu vois.
Et oui.
Et alors qu'ils restaient à un niveau qui était où parfois tu te dis ben oui, est-ce que c'est juste la crise d'ado, et après tu peux te dire mais merde, est-ce que cette notion de crise d'adolescence c'est pas outil de protection
bien sûr que si.
Ça, c'est des abuseurs quoi.
Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que t'as mentionné une fois ou deux que tu m'as dit à un moment tu pourrais aller plus loin ou autre, et je pense, et je, à ce moment-là je l'ai interprété comme plus dans le cadre du jeu et pour le côté ludique, mais en fait au final t'es en train de dire que c'était plus, t'aurais préféré que ça aille plus loin pour avoir une raison que ton bastender prête conscience de quelque chose. Donc en fait, t'aurais aimé que ça soit pire.
J'étais tout à fait en accord avec ça.
Ça, c'est intéressant.
Non, mais pire devant lui.
Voilà.
Oui.
Bah, c'est ça qui compte, parce qu'il s'imagine déjà le pire, c'est Fabien. En plus.
Moi, au moment où Killa a dit il n'y a pas que les insultes,
j'ai eu
une lueur d'espoir dans mes yeux, je sentais venir quelque chose, j'étais là, vas-y, dis quelque chose, qu'on ait quelque chose auquel se raccrocher, et non.
Et je l'ai pas calculé, mais au moment où j'ai fait ça, j'ai pas pu m'empêcher, pour la seule et unique fois, je crois, de jeter des regards intenses à des bastenders. J'ai dit, il n'y a pas que des insultes, puis j'ai fait, Pierre, François.
Ouais, non, mais c'était terrible, parce qu'à ce moment-là, il y a une lueur de doute, en fait, qu'est-ce qu'elle veut
et
dire.
Alors, le pire, c'est qu'en vous regardant comme ça, ils supposent que peut-être vos personnages savent quelque chose.
Et puis là, à ce moment-là, et à ce moment-là, je crois que tu m'as regardé, voilà. Et moi, je me suis tourné vers Jérémy. Puis Jérémy, il était en Dustin, peinard, voilà, un peu en train d'engueuler parce que non, mais quand même, mais qui se porte
bien. C'est quoi cet ado qui fait chier là?
Et là, automatiquement, tu te tournes et tu fais non.
Tu fais pas d'effort.
Et vu qu'il n'y a pas encore plus de déclarations de quoi que ce soit, tu peux pas déclencher quelque chose. C'est terrible.
Ça me fait penser à quelque chose dont on parle souvent avec d'autres parents. C'est que il y a souvent chez les parents cette tendance à minimiser les capacités cognitives ou les capacités de compréhension des enfants. Pour justifier des fautes ou justifier des actes, par exemple, je sais pas, avant. Bon, oui, on était en train de regarder un film d'horreur, il était dans son berceau, mais bon, c'est qu'un bébé, il comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, voilà. Alors qu'en fait, bah, si, il entend, il comprend, etc., etc. C'est un dialogue, Fabien. C'est pas la même chose. Jérémy, tu voulais intervenir?
Ouais, moi je pensais que l'épilogue, en fait, ça serait mon retour de bâton.
Mais non, c'était sûr que tu serais peinard jusqu'au bout.
Bah oui, quelque part, ça serait logique, mais en même temps, peut-être que j'avais besoin d'un châtiment de.
Bah écoute, on va te châtier maintenant.
Et ouais, je m'attendais à ça en disant bon, bah ça mais va non. être mon tour maintenant.
Mais non.
Question sur le système, Fabien. Dans l'éventualité où Killa reste. Le joueur ou la joueuse de Killa décrit jusqu'à la mort de Killa, mais ça s'arrête là ou est-ce qu'il y a une description de ce qui se passe après la mort de Killa?
If Killa stays, tell us how she dies sometimes in the next 6 years.
Donc on ne joue même donc il n'y a pas les conséquences après la mort de Killa.
Il n'y a aucune conséquence sur Dustin.
Dustin sera préservé. Il restera
chose qui malheureusement est vraie dans la réalité. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a, je sais plus, 1 ou 2% de violeurs qui sont condamnés.
Seulement.
Moi, c'est un truc qui m'est aussi arrivé dans mon parcours aussi, même féministe, tu vois. Enfin, le moment où tu commences à te dire « Ah oui, mais attends, telle copine, elle me dit ça, mais ça, ça c'est une tentative de viol, tu vois, ça, c'est une agression sexuelle et tout. » Simplement, t'as pas les mots pour le dire. Et donc, oui, c'est horrible à dire, mais la plupart des gens qui sont violents, ils s'en sortent.
Ils s'en sortent. DSK, qu'est-ce qu'il fait là? Il doit être, il est bien peinard, quoi, je pense. Hein.
Regarde, il y a même des gens, ça peut être des agresseurs, c'est ce qui leur permet d'être élu président des États-Unis d'Amérique. C'est un argument.
Nous annonçons que c'est le dernier podcast de la cellule. La CIA vient de tout couper.
Non, mais c'est pas un secret, si tu veux. Il a été Donald Trump. Il a été accusé de viol de manière répétée. Il a admis lui-même avoir fait des agressions, des agressions sexuelles. et ça le sert, si tu veux. Ouais. Donc oui, on est dans un monde dans lequel.
Je suis pas sûr que ça le serve, Fabien. Quand la presse dévoile ses différents accoquinages avec des.
Non, non, tout le monde le sait.
Les puritains votent pour lui malgré ça.
C'est pas sûr. Tout le mouvement de certains journalistes sur la Fox, etc., qui balance du men will be men
et qui explique
que c'est normal de faire ça.
Non, pas tous les États-Unis.
Pas tous les États-Unis.
Évidemment, mais il y a une part des voteurs.
Il y a une part des gens qui trouvent que ça fait bonhomme et que c'est bien d'avoir un bonhomme à la tête de l'État. Enfin, toute la frange masculine.
Un vrai homme.
Peut y avoir dans les gens les plus à droite, horribles.
Mais je vais vous dire,
un vrai homme, c'est un violeur.
L'enfer de Dustin, il est sur Terre, hein, en un sens. Hein, c'est tant pis, il aura jamais de vraie relation sexuelle avec une nana parce que.
Je suis pas convaincu.
Ben,
à mon avis, il sera.
C'est ce que c'est un peu ce que
dit une relation qui va très bien avec la mère.
Bah oui, avec la mère de Killa, il a l'air d'avoir une relation. Elle n'est pas évoquée cette relation. Et d'ailleurs, le personnage de ma mère était complètement absent. Parce que aucun bystander ne l'a joué, donc j'avais que des interactions avec Dustin.
Essayez de moi croire dans mon rêve que les méchants seront.
Non mais
s'il vous plaît.
Et du coup, ça se trouve, Dustin est très heureux avec ma mère.
Oui, je sais. Donc,
non mais ça non, revient. Sais, mais... Tu sais la phrase que t'aimes bien me citer, le mal gagne lorsque les
gens bien ne font
les
rien.
Gens bien ne font rien.
C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Castlevania X.
De quoi de?
De Castlevania X. C'est la phrase de conclusion de Castlevania X. C'est Alucard qui dit ça à Richter et à Maria.
C'est une citation qui vient de quelque part.
Je pense, bien sûr. Mais moi, je la tiens de là et je l'admets et je l'avoue et je vous emmerde.
Est-ce que t'as un exemple de citation qui ne vient de nulle part?
Non, ce serait
intéressant.
C'est-à-dire que ça ne vient pas de Castlevania à la base, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est un jeu qui, en tout cas moi, réveille. Mais enfin bon, c'est un truc que j'essaye de faire moi-même régulièrement, tu vois, d'être vigilant sur les situations que tu traverses. Professionnellement, ça m'est arrivé encore récemment où d'un seul coup, tu dis non mais attends, ça c'est une relation qui est pas.
On peut dire que ce jeu est un excellent divertissement au sens pascalien du terme. Hein. Vraiment, ouais, il ne nous renvoie pas du tout à des problématiques existentielles et à des problèmes sociaux. Non.
Ça me renvoie exactement au, je te dis, à la banalité du mal, façon Hannah Arendt. Hein. Le fait que quand tu suis le système social, quand tu suis les ordres, ben et en période d'austérité comme on l'a en ce moment, parfois, tu vois, moi qu'est-ce que ça signifie dans mon job? Excuse-moi, je termine là-dessus parce que j'arrête pas d'obséder là-dessus, mais en période d'austérité, les gens qui disent ah ben oui, on laisse faire, tu vois, et puis ah c'est les budgets, on nous coupe les budgets, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir de la souffrance au travail, qui vont souffrir, qui vont être mal, qui vont arrêter de dormir, qui vont avoir des problèmes de souffrance au travail, et il y a des leurs supérieurs vont laisser faire parce que dire ah ben oui, on n'a pas les budgets pour t'aider et tout.
Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que ce jeu joué par, parce que là on a 6 personnes autour de cette table qui connaissent ces problématiques, Fabien est même chercheur dans ce domaine et compagnie, vous êtes tous des gens parfaitement, je veux dire, au fait de ces... Est-ce qu'on met 6 masculins autour de la table, on leur fait jouer à ce jeu, est-ce que vous pensez qu'ils arrivent aux mêmes conclusions, que cela provoque chez eux cette même révolution métaphysique? C'est une autre manière de poser la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que les règles sont nécessaire et suffisante, plutôt suffisante seulement d'ailleurs, pour vous faire obtenir ce propos? Ou est-ce que c'est vous qui, parce que vous êtes des gens déjà, on va dire, préparés à ce type de propos, voyez dans le jeu de Ben Lehman ce type de problématique? Antoine?
Déjà, ça serait compliqué de savoir si jamais ils auraient envie d'y jouer, ne serait-ce qu'arriver à faire une partie.
Ok, c'est déjà, c'est déjà une très bonne réponse.
Rien que ça,
ouais, c'est vrai.
C'est pas garanti.
Pierre va nous faire un coming out, genre bah moi je suis un gros mascu.
Et quand on dit mascu, on dit bien masculiniste. Hein,
oui, bien
parce
sûr.
Parce qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'on peut être masculin et féministe.
Pierre.
Alors, déjà, dans l'éventualité où de telles personnes accepteraient de jouer à ce jeu, je ne pense pas. Parce que.
Non. Donc, tu penses qu'il n'aurait pas cet effet on fait partie de la majorité silencieuse, on laisse faire. Ça ne les ferait pas prendre conscience.
Moi, je pense que s'ils jouent, ça donne les mêmes scènes, mais ils en ont rien à faire.
C'est même pas ça. Ça voudrait dire qu'ils trouveraient le comportement de
Dustin parfaitement approprié.
Dustin approprié.
Moi, c'est mon intuition.
C'est le père, le patriarcat, tout ce que tu veux.
Exactement. Et c'est ça. Et donc, du coup, si cette intuition-là est vraie, ça pose la question de, tu vois, de l'intérêt de ce type de jeu.
Je repense à un truc, mais...
Fabien, vas-y, je t'en prie.
Regarde le nombre de stars hommes qui ont été accusés ou qui ont même été condamnés pour des violences et on continue à laisser faire. Regarde Woody Allen. Regarde Johnny Depp, merci.
Johnny Depp.
Polanski. Regarde Bill Murray. Comment il s'appelle le... Jérôme va en avoir... Je les ai pas toutes en tête, mais il y a des listes sur
Jérôme,
Internet.
Jérôme, il a une blacklist avec tous les noms.
comment il s'appelle le type qui a joué James
c'est vrai,
Bond au début le premier
Sean
James
Connery.
Bond, Sean Connery qui disait que quand une femme commence à s'énerver, une bonne torgnole, ça la remet en place. Interview, hein, enregistré, je veux dire, c'est pas...
Mais peut-être qu'aujourd'hui, il est complètement déconstruit et qu'il s'en veut d'avoir dit ça, tu vois.
Et sans compter tous ceux qui passent entre les mailles du filet parce qu'ils ne passent jamais la ligne,
oui,
mais qui ont
sûr.
Des comportements abusifs et toxiques et de l'ordre de l'emprise, des Kubrick, des gens soi-disant exigeants, des Lars von Trier, Tarantino, ces gens-là qui, en plus, passent complètement... c'est des gars cool, tu vois, ils ont du talent.
C'est le fond du mouvement MeToo. Le vrai fond du mouvement MeToo, c'est de dire, non mais après, regardez, ces gens qui... et l'affaire Weinstein derrière, bien sûr, c'est que... En fait, on est sans doute même dans une société, et le jeu ne va pas jusque-là, mais pas loin, dans laquelle on récompense les gens qui sont abusifs.
Mmh. Très bien. Enfin, très bien.
Super, génial.
Super, très bien. Et heureusement.
Mais en même temps, sinon, le monde serait comment?
Mais oui,
on
se vrai, demande. Non, mais bon, donc, ok, ce jeu donne l'occasion de parler de ce type de problème. Etc. Ça c'est indéniable. Le titre est assez explicite de ce côté-là. Le truc c'est que ouais voilà. Je doute à titre personnel de l'intérêt pédagogique de ce type de jeu. Il prêche des convaincus.
Si quand tu prends un cas extrême des non convaincus non convaincables, oui, mais au milieu il y a tout un curseur de d'éléments de réflexion que ça peut amener.
Ouais. Alors que tu vois par exemple des jeux comme Dog Eat Dog.
Oui.
Je pense, tu fais jouer, tu fais jouer quatre dominos. La preuve, c'est que nous, Antoine, ensemble, on avait fait le test. Et ben, je trouve que moi, j'y ai vu des choses, j'ai découvert des choses. Tu vois ce que je veux dire?
Mais tu devrais jouer à celui-là aussi pour voir si en y jouant, ce que ça peut t'apporter.
Ouais, ben, je pense qu'en fonction des rôles aussi, c'est différent.
Oui, évidemment.
Pierre, Fabien, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Pierre en premier, très bien.
Bah, juste, tu parles de l'intérêt de ce jeu, mais après. Tu dis que nous, on est éveillés à ce genre de problématique.
Tous les jeux ont un intérêt, soyons clairs.
Oui, bien sûr. Mais pour des personnes qui n'en ont pas forcément confiance, déjà, ça les poussera dedans. Et moi-même, qui étais déjà dans ces questionnements...
Ça les confirme.
Ça les confirme, mais surtout, peut-être que les prochaines fois, je serai encore plus enclin à agir. Et en me disant non, il n'y a pas de règle.
Ça, c'est très intéressant.
Révolution, ouais,
très intéressant. Jérémy.
Eh ben, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'étais d'accord exactement avec le propos. L'intérêt aussi de ce débriefing, nous, on se le permet. Ça permet justement de dire ok, ça m'intéresse. Ok, je l'ai vécu et c'est toujours bien de le vivre en fiction, de dire il y a des situations qui peuvent être dangereuses. Et si ça doit arriver, eh ben, le moment où j'hésite, peut-être dire je repenserai à cette partie, il ne faut peut-être pas que j'hésite.
Très bien. Waouh.
Wow. Ouais, mais j'allais dire la même chose. Là,
tout le monde sait. En fait, vous précisez.
Non, mais tu sais, le faux argument dira ça prêche que des convaincus. Moi, ne m'a jamais convaincu, lol. Oh, parce que. Non, mais parce que, en fait, si tu veux, le simple fait de remobiliser, entre guillemets, tes troupes, en quelque sorte. Et en plus, je dirais même que, en tout cas. Je parle pour moi en tant qu'homme blanc hétéro. Si tu veux, je suis plutôt. Enfin, s'il n'y a pas quelque chose pour me le rappeler, tendanciellement la société ne me le dira pas quoi. Donc aller à travers des œuvres qui me rappellent ça et qui me remobilise, je sais pas comment, qui me rappelle ce que je dois faire, c'est une très très bonne chose. Moi, même si par ailleurs je suis complètement convaincu.
Moi, avocat du diable. Je viens de me faire crimer de balles. Antoine.
Et surtout au-delà de ça, même en dehors du contexte du jeu, ce jeu peut donner des billes, peut donner des exemples, peut donner du vocabulaire, avoir créé une réflexion qui aidera à discuter et à convaincre avec des gens plus les inconvaincibles, les irréductibles.
Entre les deux, quoi.
Voilà, entre les deux.
En zone grise.
Peut-être pas en jouant au jeu, ou alors en jouant au jeu après une discussion, mais quoi qu'il arrive, ça donne des billes, effectivement, et ça remet ces sujets... Ça fait remonter la vigilance vis-à-vis de ces sujets.
Enfin, tous vos arguments sont parfaitement convaincants, je pense. Le public, oh là là, je remets...
Un dernier argument, on va l'achever au sol.
Une question de Jérôme S. de Poitiers.
Une dernière balle en forme de question.
Ouais.
Du coup, qu'est-ce que tu veux dire avec ton argument, Romaric? C'est que tu voudrais un jeu qui puisse convertir les gens à coup sûr, y compris les plus réfractaires.
Oui, c'est
ça,
vrai.
Ça, c'est son rêve.
C'est mon rêve absolu. Bah, regarde déjà, avec Sans, c'était un peu l'idée. Tu vois, tu transformes des gens non philosophes en philosophes.
Je le comprends.
T'imagines, tu ferais jouer à un jeu, une œuvre, il serait immédiatement.
Est-ce que ça existe déjà?
Jérôme, je suis pas du.
Mais dans la myriade de toutes les œuvres, est-ce que ça existe déjà?
Non, bien sûr que non. Enfin, je crois pas. Je crois pas.
Ah, joue au jeu, comment s'appelle Lou et Morgane de Valentin.
Valentin.
Ouais, en fait, après, il y a différentes formes. Je pense que ce que tu évoquais, Romaric, c'était un jeu dans lequel tu ne vois pas a priori la structure.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et qui, quand tu es placé dans cette structure, tu te rends compte de ces mécanismes.
C'est ça.
Et tu fais une analogie avec le monde réel et tu te dis, oh my god, je t'ai dans ces structures.
C'est ça.
Elles me sont maintenant révélées.
Et du coup, je peux m'en libérer.
Voilà, c'est ça.
Voilà, un jeu
alors,
libérateur.
Est-ce que, voilà. Alors après, là, on nous dit pas ça exactement. On nous dit, donc voilà, on va vous mettre dans une situation problématique avec voilà, des prétirés quelque part qui ont des relations particulière pour vous faire comprendre par une autre manière que la révélation systémique en fait.
Ouais.
C'est ça que tu attendais quoi.
Alors mais ouais mais carrément mais en fait
Pierre, les deux sont très intéressants.
Et puis Pierre m'a parfaitement convaincu quand il a dit dès le premier argument j'étais complètement séduit quand il dit bah si parce que si je me retrouve à nouveau dans cette situation là bien qu'étant concerné je me rappellerai en plus de cette partie qui me motivera d'autant plus à agir et donc en fait si ça produit vraiment un effet parce que même si on est conscient d'un truc il nous arrive comme je vois le pire, je vois le meilleur, je fais le pire, c'est tous les jours.
Vidéo améliorera, détériora, c'est quoi ? Non, vidéo améliorera, probocoua, détériora.
Phrase d'ailleurs que j'attribue très souvent à Aristote, apparemment, dans des podcasts précédents, et on m'a récemment dit que c'était pas du tout.
Moi, c'est mon père
et on
qui
m'avait
sortait
dit
ça tout le temps.
Ouais, ok, et on m'avait dit qui c'était, et j'ai oublié. Bref.
Je voulais juste dire qu'il y a quand même une différence pour moi, c'est-à-dire c'est comme si tu lisais un rapport de partie, mais non, un témoignage.
Saint Thomas, me suppose Fabien, peut-être en dehors des micros.
C'est comme si tu lisais un témoignage. Tu ouais. te dis, ah oui, c'est non, terrible ce qui se passe. Moi, clairement, il ne faut pas que je me laisse embarquer là-dedans.
Ouais.
Et donc, après, tu vas vivre dans ta vie, etc. Mais le problème pour moi, à titre personnel, c'est de me dire, mais quels sont les mécanismes, en fait ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se produit pour pouvoir agir dessus ? Et donc, l'intérêt d'avoir des jeux qui te montrent une violence systémique, c'est d'en voir les mécanismes et donc de pouvoir t'émanciper. Moi, quand on me dit... Il y a une forme de loi du silence qui fait que... Mais c'est quoi la mécanique derrière quoi ? C'est quoi le fonctionnement de tout ça ?
Ouais.
Et j'ai le sentiment que les jeux systémiques sont puissants pour s'émanciper parce qu'on peut
décortiquer.
Voilà,
par exemple, dans ce jeu-là, on voit bien qu'une des parts essentielles du fait que ça marche, c'est que Kila ne peut pas être isolé et à l'écart de Dustin.
Voilà.
Ça peut nous donner l'idée, dans ce genre de, dans une situation comme ça où il y a un doute, de prendre à l'écart la personne qu'on soupçonne d'être la victime et d'essayer de discuter avec elle à l'écart.
Excellent, très bon exemple. Pierre, puis Antoine.
Et d'autant plus que pour aller plus loin dans ce que ce jeu permet, c'est là où on se rend compte de la puissance du média jeu de rôle, parce que lire un témoignage qui parlerait de ça, on a une échelle de ressenti très basse, je pense. On se dit juste, c'est horrible, etc. Mais...
Pourquoi n'a-t-il pas agi, etc. Alors que là, c'est pourquoi je n'ai pas.
Alors, moi personnellement, j'évite d'être dans le jugement, d'être dans le genre de jugement, mais c'est surtout avec le jeu de rôle, même à un millième du truc, tu peux t'approcher du ressenti de ça.
D'accord.
Donc, tu as la structure et en plus, tu as ne serait-ce qu'un bout du ressenti que tu pourrais avoir dans une telle situation. Et c'est là que
c'est très fort.
Ouais.
Antoine. Fabien, interruption.
Ovid et la métamorphose.
Ovid, voilà, merci.
Et Saint Paul aussi nous dit Wikipédia.
Merci voilà. Fabien. Antoine.
Alors moi je voulais revenir sur un élément dont on n'a pas parlé tant que ça. En fait, on a beaucoup parlé de la violence, du non-dit, de la scène invisible, de tout ce que ça présuppose. Mais au final, moi dans la partie, ce qui me fait monter émotionnellement, c'est vraiment juste la violence des scènes qui ont lieu et presque plus, en fait, j'ai remarqué la violence des conversations avec les bystanders, parce que la violence de Dustin, je l'anticipe, je la prévois, et le jeu me pousse à la rechercher. Alors que les différentes formes de violence...
des bystanders. Voilà. Si
alors que les différentes formes de violence des bystanders, c'est être désabusé, c'est être « Ah, toi aussi !»« Ah, tu vas pas remuer le couteau dans la plaie, tu vas pas toi aussi t'ajouter à ça !» Et notamment, c'était quelque chose que j'ai trouvé très marqué dans notre partie. Je ne sais pas si le jeu amène ça naturellement ou pas. La bien-pensance et la morale étaient très très présents. La phrase qui revenait beaucoup, la phrase la plus violente pour moi, qui était très présente chez Dustin, mais aussi chez d'autres, c'était « Je fais ça pour ton bien ». En fait... comme il y avait tous ces thèmes d'association, d'implication dans la communauté, l'idée de communauté est très présente, l'idée de groupe est là, il y a systématiquement une incompréhension de tous les personnages de l'envie de qu'il a de se mettre à l'écart et d'avoir son espace à elle et son identité à elle en dehors des autres, ce qu'elle n'a jamais parce qu'elle est toujours présente avec les autres dans toutes les scènes. Et il y a un véritable écrasement et un étouffement. Moi, vraiment, je ressens au fur et à mesure, même dans l'espace de jeu, que je suis un point du cercle, mais le cercle se referme vers moi. Parce que ce qui revient tout le temps, c'est... il y avait tout le temps, mais tu veux pas faire un effort, tu veux pas aider la communauté, participer à ça, t'inscrire à une association. Viens avec nous, rejoins notre communauté, rejoins notre groupe, ce groupe qui t'oppresse. Et non, moi, ce groupe, je ne pouvais pas le rejoindre. Ce que j'avais envie de dire, c'était, mais laissez-moi tranquille, vous, mais faites vos barbecues vegan, si vous voulez, faites vos trucs associatifs, faites vos dons de sang, tout ça. Ok, c'est très bien les dons de sang, et c'est ça qui est difficile comme défense, c'est que les gens te disent, bah, t'aimes pas ça, aider les gens. Je peux pas répondre non. T'aimes pas ça, participer à la communauté, etc. Et à un moment, la seule réponse que je pourrais donner, mais qui est impossible à donner, c'est... Non, la communauté, je l'emmerde parce que la communauté ne me laisse pas exister en dehors d'elle. Elle me laisse pas la liberté de choisir d'en faire partie ou pas. Et ça, c'est quelque chose que les bystanders amènent vraiment beaucoup et pas que Dustin. C'est toujours ce côté, il faut que tu fasses, comme s'il y avait un problème. En fait, tout le monde présuppose un problème parce que c'est le stéréotype de l'adolescente à problème, etc. Tout le monde présuppose une situation problématique et tout le monde cherche une solution dans la communauté. Tout le monde dit, tu devrais rejoindre le club de ceci, tu devrais aider à ça, et tout le monde présuppose que c'est comme ça que le problème va être résolu. Et en fait, le problème chez Killa, il est que supposé, et il y a des tonnes de solutions qui sont amenées, sans que les gens aient pris le temps de se demander avant, mais attends, c'est quoi le problème exactement ? Est-ce qu'il y en a vraiment un à l'endroit où on pense ? Et ce qui est terrible, c'est qu'au bout d'un moment, moi, tout ce dont j'avais besoin, c'est de liberté, de distance avec ça, mais même dans une forme de tolérance, de leur dire, mais
peut-être
vous,
même pour y revenir.
Voilà, mais oui, voilà, mais vous de votre côté, faites ce que vous voulez, foutez-moi la paix, laissez-moi le choix de m'impliquer dans ce que vous faites ou pas, mais arrêtez de partir du principe
que je dois le faire
et que c'est la seule solution à mes problèmes, et surtout que je suis pas capable de m'en sortir toute seule, que je suis pas capable de régler mes problèmes moi-même, et que pour régler mes problèmes, je dois obligatoirement souscrire à vos activités, etc. Coup,
là, c'est vraiment
qui était fort pour moi.
Je te propose vraiment d'expérimenter.
Ah oui, moi j'étais à fond avec ça. Et j'en profite pour ajouter que moi, dans ma vie personnelle, j'ai pas du tout une adolescence difficile vis-à-vis de mes parents. Globalement, j'ai pas eu des gros conflits. Particulier, forcément un peu, mais c'était pas quelque chose de majeur. Par contre, là où le jeu m'a fait écho à des choses, et où il touche quand même à des thématiques plus larges que juste les rapports d'autorité par enfant abusif, il y a des émotions et des formes de dialogue que j'ai ressenties, et dans ce silence, qui me font énormément penser au phénomène de bullying ou des choses comme ça au collège ou au lycée ou à l'école. Il y a aussi des formes de silence, il y a aussi des formes de rapports d'autorité un peu biaisés. Ouais.
Tu veux dire que Dustin, ça pourrait être aussi le chef de la bande, absolument. Le copain.
Ça pourrait tout à fait, hacker le jeu, voilà. Hacker le jeu dans ce sens-là, parce que tous les stéréotypes associés à Killa font vraiment. Stéréotype du, enfin, le premier c'était acné surpoids, enfin c'est ouais. Le cliché de la victime du fond de la classe. Il y a dans toutes les dynamiques de groupe comme ça, de jugement d'une personne comme à part, et que le groupe n'accepte pas qu'elle soit à part, ça colle aussi.
Fabien voulait intervenir. Attends Pierre, deux minutes. Ouais. Fabien voulait intervenir.
Non, mais il y a des variantes qui effectivement permettent de jouer ça à la fin, et t'as tout un tas de variantes, notamment en inversant les genres.
C'est
les
prévu.
Regarde tout à la fin du document.
Okay. Mais c'est intéressant que dans un premier temps, les genres soient vraiment dans le patriarcat ouais. Absolu, ça, c'est un bon point de départ.
Malheur à qui danse hors de la ronde. Finalement, ce que décrit Antoine rapidement, c'est que toute communauté tend à considérer que la solution à tous les problèmes, c'est d'être plus intégré dans la communauté. Sauf que il y a beaucoup.
Attention à ton micro, on t'entend.
Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont créés par la communauté elle-même. Et donc ça, c'est des situations qui sont absolument désastreuses.
Pierre puis Jérémy.
Moi, c'est juste une démonstration de mon culture. T'as dit phénomène de bullying, de quoi ?
Harcèlement à l'école.
Ah d'accord.
Les gros lourdeaux qui emmerdent.
Je connaissais pas le terme. Excusez-moi.
Jérémy, tu voulais intervenir.
Oui, donc du coup la solution vis-à-vis de cette société qui met une pression qui ne rapporte pas la solution, c'est le seul moyen de réussir, c'est de ne pas jouer en fait.
Donc le seul moyen de gagner à cette partie vis-à-vis de cette confrontation de la société, c'est de pas jouer. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'à un moment elle est sortie.
C'est s'enfuir. C'est s'enfuir, ouais, dit Antoine en dehors du micro.
Après, sur cet aspect... Alors, la pression sociale est indéniablement là, mais l'idée de s'intégrer à la société, je pense que c'est aussi dû aux archétypes qu'on a pris et à des choix qu'on a fait dans la partie où justement on avait un j'ai perdu le nom du beau-père
Dustin
qui était très engagé dans des activités communautaires,
engagé et engageant,
c'est ça, et qui donc il y avait toujours cette idée qu'il fallait s'engager pour faire quelque chose de sa vie, qui revenait souvent. Donc je pense que c'est aussi dû à ça. Mais à mon avis, vu le profil que Dustin est censé avoir de bonne image sociale, cette activité communautaire oui, ça, doit ça être émerger, un je truc pense, qui émerge pratiquement systématiquement.
Hmm. Ah oui, mais elle était affreuse, notre
oui,
vie.
Oui, mais...
C'était, t'es, non, mais clairement. Soit tu
La dernière réplique que je t'ai dit,
t'as un mec sympa qui participe au truc, qui donne son sang ou pas, ou tout le monde te dit, ou tout le monde te rejette, quoi. Ouais, c'était vraiment le côté de la bien-pensance. On était encore dans un stéréotype d'ailleurs de la bien-pensance américaine qu'il peut y avoir dans certains quartiers ou autres, mais ça c'était un bon terreau pour ce jeu.
La raclure machiste, carniste, qui aime pas les animaux.
Bon, je sais pas ce que vous ressentez là présentement, mais comme tout le monde est levé, en train de bouger autour de la table, je pense qu'il est temps de clore ce podcast. Oh, il y en a qui regardent sur internet.
Non, mais on a regardé le post. C'est quoi cette Neyman? On allait lire précisément le post de Ben Lehman sur le PTSD.
D'accord. Et alors, donc
les auditrices et auditeurs iront le lire.
Iront le lire, très bien.
Et le même, et puis ça ira mieux.
Merci à vous de nous avoir présenté ce jeu. Merci Fabien de continuer à patronner Ben Lehman.
Merci Ben Lehman d'être aussi génial quand même.
Ah oui. Un jeu super, jouez-y. C'est de l'amusement pour toute la famille.
Antidépresseur fourni avec le PDF.
Ah mon dieu. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien, vous avez vu, ça fait réfléchir. À très bientôt.
Au revoir.